va-t'en bas.
Chers amis, bonjour. De Toulouse à Quinte-Fonce-Grive, en passant par Saint-Pierre, vous écoutez Radio Éphémère. Nous sommes le samedi 22 juillet 2013. L'été n'est toujours pas là. J'espère que vous avez toujours vos oreilles suite à la fête de la musique. Alors, c'est parti pour le programme de cette matinée. Nos programmes pour cet après-midi, donc à 13h, du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie. À 15h, du reggae avec Janet Dead. Et à 17h, FMRC de l'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz.
Oui, pour ceux qui ont cru à cause du sonal qu'on était sur 96.3.
Non, voilà. On avait des Québécois tout à l'heure très gentils. On les embrasse très fort.
Et là, on a juste passé le générique de vieux sonal d'ailleurs de France Culture, suite 82.
Ah, en tout cas.
Et ils font leurs 50 ans et on a des copains là-bas, donc on leur dit bonjour.
On
je
dit
sais
bonjour
que du sport, lui, ça l'énerve, ça l'agace. Tout bon, tout
non, non, pas du tout, je m'en fous, quoi.
Mais dans l'immédiat, voici la saga au Stetson que vous attendez tous.
Précédemment, dans le supplément week-end.
Les machines ont remplacé l'inspiration, tu vois, c'est beau.
Mais
ceci est un autre débat. Allez, une petite sélection de films space à la télé.
Ah,
pas que, hein, pas que, mais enfin
ouais,
bon, des trucs un peu space.
Cake,
quoi.
Attention.
Radio FMR présente. Le supplément week-end. Le magazine des cultures geeks. Avec du sport, Ultimatum, Das Creek et la participation exceptionnelle de JB.
Et après, ils ont développé le détendeur.
On discute.
Ça fait un peu bizarre, on parlait de France Culture, on parlait de Dallas, et là
on est passé à Picard.
Sur Picard, voilà. Mais ouais, on... Bonjour et bienvenue, bonjour Morgan, comment vas-tu?
Salut Xavier, ça va très bien,
ouais.
Toi
bonjour du sport,
bonjour.
Tu vas bien?
Ça va, ça va.
Bon, alors aujourd'hui, il y en a un qui est pas là.
Oui,
bah ouais.
Et il a une bonne excuse aujourd'hui.
Je n'en suis même pas sûr.
Si, moi j'en suis sûr, parce que ce jeune homme à la vingtaine qui commence à se tasser fête son anniversaire aujourd'hui, donc on souhaite un très joyeux anniversaire à notre
non,
ami
non,
Thomas.
Non, 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 on veut lui
parce
faire...
Que, parce que...
Hop.
Alors, on a Xavier qui est en train de préparer une sorte de... Qu'est-ce que tu fais? Voilà, on va, chers amis. C'est un canular téléphonique.
Oui, tout à fait.
On a des auditeurs.
D'après
des
toi, est-ce qu'il va décrocher?
Qui n'en peuvent plus là. Elles attendent que.
Adrien, désolé.
Que ça décroche. Alors là, c'est le suspense radiophonique.
Ouais, je crois qu'il va pas décrocher.
Je pense que ce moment est extrêmement radiophonique.
Non, 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 on tombe sur son répondeur. Donc.
Sacré messagerie en tout cas.
Il aurait pu en prendre des vrais.
Bon, donc Thomas, le cœur y est, mais ton corps n'est pas là et je le regrette amèrement.
Oh là!
Je suis.
Ça commence bien.
Ta chaise est vide, j'ai envie de pleurer. Ça fait 3 émissions que je viens, t'es pas là.
La revue de presse, donc, avec Zo, ouais. Numéro 48, mai-juin, donc en kiosque gratuit. Franquin parle, Christophe Beck, les X-Men ont 50 ans, mais je crois que j'en ai déjà parlé. Oups! Ouf, on a évité
bon,
ce moment
je vais
très
aller
gênant.
Café, alors.
accessoirement, donc aujourd'hui, il y aura un peu de bande dessinée, il y aura pas mal de séries américaines. Il y a aussi un homme d'acier.
Un homme d'acier, ouais.
Voilà, qui est de retour et plein d'autres choses derrière. Donc,
il sera de retour sans son slip rouge.
Sur le pantalon. Il a tenté de lancer une mode, il n'y est pas arrivé.
Non,
en tout cas, avec lui, ça n'est pas ridicule.
C'est pas ridicule, mais moi je me vois quand même pas me promener avec mon slip rouge par-dessus
oui,
mon pantalon.
Oui, non, c'est ridicule, mais pas lui, c'est un peu
oui,
gênant.
Mais le mec en même temps il vole, donc bon, bref, on en parlera
non,
tout
mais
à l'heure.
Non, c'est pas humain, c'est pas humain de mettre un slip comme ça et ne pas être ridicule.
Je me demande si c'est kryptonien, tu vois. Je pense qu'il y a des limites.
Bref, on est très mal parti aujourd'hui dans cette émission, dans le Supplément Week-end. Bonjour
mais
et bienvenue.
C'est l'été, c'est normal, il fait beau, il fait chaud. Non, je rigole, il fait pas beau, il pleut, on est dégoûté.
Il pleut un petit peu, mais ça va pas m'empêcher de faire un barbecue. Après tout, hier, il y a eu moins de saucisses dans les rues. Je sais pas, il y a eu une.
Alors attends, on a parlé slip, on parle saucisses. Qu'est-ce que tu... Où est-ce que tu veux en venir, Xavier? Dis-moi tout. Je te sens un petit peu perdu.
Bref, c'est l'émission numéro 353. Ça sent bientôt la pause pour moi parce que là, j'en peux vraiment plus.
Faut qu'il fasse la sieste.
Oui, tout à fait.
Qu'est-ce que tu nous as prévu aujourd'hui au programme?
Eh ben, aujourd'hui, on va parler mangas, entre guillemets. Enfin, non, vraiment une série qui est intéressante pour commencer. Et ensuite, on va parler un petit peu de saga moyenâgeuse. Non, s'il vous plaît. Mais ceci dit, sans arrière-pensée, moi j'ai beaucoup adoré la chorale Miaou la semaine dernière pour l'anniversaire de la radio.
Oui, moi aussi beaucoup, mais j'aurais aimé avec des petits écureuils, ça aurait été encore plus mignon.
Non, ils étaient tous très bien fringués et tout ça, et ils chantaient des chansons paillardes. La vita du là. C'est horrible.
Nous ne mangeons pas
de ce pain-là. Le cœur des vierges, c'était une merveille.
C'était une émission un peu space.
Non, c'est que j'ai pas eu le temps de caler les disques ni quoi que ce soit.
Donc, chers auditeurs, voilà, c'est un moment assez important parce que il faut combler. Donc, le
non,
comblage.
Non, mais ça y est, c'est comblé.
Mais c'est ce que je viens de faire en fait. C'est dans des instants comme cela où. Voilà, je suis obligé de monopoliser l'antenne.
Je ne te sens obligé de rien du tout. Du sport, lui, au moins, c'est mon obligé.
Ah.
Il amène le café. Donc, je vais vous parler d'une série qui m'a vraiment beaucoup plu, que j'ai trouvé vraiment sympathique et bien amenée. Hakimi Yoshida, ça s'appelle Kamakura Diary. C'est chez Kana dans la collection qui est plus shoujo manga, donc qui est à destination plus des filles. C'est un bouquin qui est bardé de prix. Alors que en fait, il raconte une histoire tout à fait. Je veux dire, c'est dans la quotidienneté. Hein, c'est un peu dans l'approche nouvelle manga. Mais en tout cas, c'est très agréable à lire. C'est l'histoire de trois sœurs. Leur mère est morte. Leur père les a abandonnées quand elles étaient jeunes, il y a 15 ans. Elles ont été élevées par leur grand-mère qui leur a légué une vieille maison dans la petite ville de Kamakura. Ce sont trois personnalités fortes. Entre Sachi, infirmière de nuit, Yoshino qui tente de se construire une vie amoureuse et Chika, une benjamine complètement délurée. On va dire que ce sont trois sœurs quand même qui ont des tempéraments et on sent que des fois ça gueule un peu entre elles. Ouais, vous imaginez l'ambiance. Elles apprennent que leur père, qu'elles n'ont pas vu depuis donc plus de 15 ans, est décédé et elles sont invitées par la nouvelle famille du père aux funérailles. Alors ce sont des histoires où la mort rapproche, où de nouveaux cadres et liens familiaux se créent, et où le pardon passe par des voies totalement inattendues. Ces trois sœurs vont en adopter une quatrième, Suzu, leur demi-sœur, leur manière pour elles de pardonner à leur père et aussi de reconstruire une autre famille. Alors pourquoi leur père a fui? Pour des raisons de dette, ayant été le soutien d'un de ses amis? Et aussi, si l'héritage est la vraie raison pour laquelle les deux familles se croisent enfin, l'argent ne sera pas finalement le moteur de l'histoire. Au contraire, ce sont des relations d'amitié et d'amour qui vont dominer ces petites chroniques. La trame scénaristique ne fait pas que raconter les petits incidents de la vie, mais pourtant on est happé par l'histoire, par les sentiments. D'une manière surprenante, on prend un réel plaisir à en tourner les pages. Et l'illustration d'Hakimi Yoshida est très agréable, ponctuée de petits gags. Au fur et à mesure, d'autres personnages vont entrer, comme le capitaine de l'équipe de foot du lycée, qui va devoir vivre avec sa jambe amputée, ou le nouvel amour de Yoshino, qui n'a pas dit l'essentiel sur lui. En fait, on entre dans ce livre, et on y reste, mine de rien. Mais il en faut peu pour faire une série manga se faire couvrir de prix, justement, de ce côté-là, et c'est vrai qu'il est plutôt bien récompensé, et c'est franchement mérité. Kamakura Diary, le tome 1 donc est sorti dans la collection Kana, c'est de Hakimi Yoshida, et si même moi qui aime bien les trucs qui déménagent ou les polars bien durs, etc., je me suis fait happer là-dedans et j'ai adoré. C'est qu'il y a quelque chose, franchement, quelque part dans ce bouquin, et c'est vraiment un grand moment. Du coup, t'es intrigué, tu te dis
Oui, mais tu me... Moi, j'ai la petite larmichette à chaque fois que tu présentes quelque chose qui t'a passionné.
Oh,
comme
merci
ça.
De survendre mes chroniques.
travail d'équipe oblige. Non, ouais, je suis en train de feuilleter. Un très beau dessin. Mais je te le piquerai.
Merci.
Il y a, est-ce qu'il y a d'autres tomes qui sont prévus?
Oui. Normalement, si je me trompe, le tome 2 est déjà sorti en librairie.
D'accord.
Parce qu'en fait, il est sorti le mois dernier. Mais en tout cas, vraiment de ce côté-là, ça a été vraiment un bonheur à lire. Et on va passer à tout à fait autre chose avec un auteur, un scénariste du coin, Pierre-Roland Saint-Dizier, et un dessinateur italien qui s'appelle Andrea Mutti. Ça s'appelle Campus Stellae. C'est coédité par les éditions du Patrimoine et par Glénat, donc soutenu par les musées nationaux. C'est une série qui est intéressante, qui fait un pari plutôt osé, Campus Stellae. Écrire des polars, des histoires individuelles qui se passent sur les différents chemins de pèlerinage vers Saint-Jacques de Compostelle. Oui, je sais, c'est un petit peu dangereux de parler actuellement de religion, de morale, etc. Oh non, mais je vous rassure.
Ça s'arrête là. D'accord. Non, pas de souci alors.
Ouf. Et chaque intrigue en fait se base sur des faits plus ou moins historiques d'ailleurs, réels, qui sont plus ou moins passés. Dans le premier tome, le premier chemin va du Puy à Moissac, où on les écoute sur 94.2, et c'est une statue de Vierge Noire, en fait une ancienne statue d'Isis ramenée en France suite à la croisade de Saint-Louis, qui en est le point central. Peut-être la clé qui mènerait à un trésor, ce qui attise bien évidemment des convoitises. Dans le deuxième tome, les deux reliques, un moine joue le coursier entre Paris et la Sauve majeure, avec en sa possession les probables restes de saints. Alors à l'époque, les reliques de saints sont vénérées parce qu'on y prête bien évidemment des pouvoirs de guérison, de miracles, etc. Et cela n'en rend que plus périlleux le chemin. Et comme à l'époque, les pèlerins s'engageaient rarement seuls sur les routes de France, ce qui n'était pas sûr, il y avait plein de sauvageons. Ce sont donc des groupes que nous suivons, avec les périls que sont les attaques de bandits, les petites escroqueries et bien évidemment l'intrigue principale en elle-même qui avance. Alors, je vais vous surprendre, mais Andrea Mutti, nous l'avions indirectement suivi dans une série, puisqu'il avait pris la suite de Riccardo Burchielli, ce qui dit quelque chose à du sport, qui me fait du bruit avec son journal, il a fait un tome de l'excellente série DMZ.
Oui.
Il est passé du dessin rough d'un New York ruiné par une guerre civile à un graphisme très léché mettant en image le Moyen-Âge, et plutôt bien. Et je suppose qu'avoir comme scénariste un grand spécialiste de la région et de l'histoire, on peut parier quand même de la qualité de reproduction, surtout quand derrière, c'est coédité par les musées nationaux. Ok, on y va un peu fort. Encore plus drôle, Andrea Mutti a dessiné un Iron Man zombie. Il a fait des spin-offs en fait de Iron Man. Il se retrouve donc comme ça, illustrer l'Europe du Moyen-Âge, donc la France plus précisément, sur quelque chose d'assez précis. Et de ce côté-là, je suppose que ça n'a pas dû être facile pour lui, parce qu'on imagine que Pierre-Roland Saint-Dizier, qui est rédacteur en chef d'Albimag, il a scénarisé plusieurs bandes dessinées historiques ayant pour cadre Toulouse, Bordeaux, Albi et Mulhouse. Il prépare d'autres albums historiques, notamment sur l'aérospatial. Inutile de dire qu'il doit bien connaître son métier de scénariste de BD dans ce cas-là, et qu'il doit fournir au dessinateur une belle masse de documentation en vérifiant derrière. Ça n'a pas dû être simple. La coédition avec les éditions du Patrimoine, gage de sérieux, ma foi, qui a dû être assez difficile. Si vous avez aimé Le Nom de la Rose, je pense que cette série devrait au moins vous divertir. On va pas quand même sur une histoire qui est absolument énorme et foisonnante, etc. Non, là on parle de la grande histoire avec dessus une intrigue. Et si au moins ça vous divertira, peut-être que ça vous donnera envie de passer des heures à en savoir plus sur les villes traversées, puisque donc on donne des détails sur les abbayes, les villes médiévales, etc. Quand est-ce qu'a été construite telle église ou telle abbaye,
monument,
et tout le reste, voilà. Ouais. Donc c'est plutôt intéressant. Moi j'ai trouvé que ça faisait une belle entrée en matière. Thomas a mis du temps avant de me le rendre. Je pense que quand même ça lui a plu dans un certain sens. En tout cas, le texte est très dense. C'est peut-être un petit peu le problème. C'est que du coup on en oublie le dessin. C'est-à-dire on se focalise sur l'intrigue et on en oublie justement les reconstitutions. C'est des dessins qui sont vraiment bien léchés, vraiment, vraiment bien amenés. En tout cas, là on a vraiment une paire d'auteurs qui qui est plutôt costaud, c'est pas mal du tout. Pierre-Roland Saint-Dizier au scénario, Andréa Moutier au dessin. Campus Stellae, le premier tome s'appelle Le Premier Chemin, le deuxième tome s'appelle Les Deux Reliques. C'est coédité par les éditions du Patrimoine et Glénat. Et c'est actuellement donc chez les libraires. Quoi ? Ah oui, oui, non, j'ai fini après.
D'abord, ouais, juste pour vous signaler que Hit Girl de Marc Millar est sorti en version française. Vous pouvez l'acheter désormais dans vos librairies favorites.
Ah, super ! Pas pour les enfants du tout.
Alors, est-ce qu'on aura droit à un film, à ton avis, sur...
Ah oui, oui, c'est prévu, hein.
C'est prévu.
Parce qu'il y a Kick-Ass 2 qui va sortir donc en fin août, 21 août.
Première sortie mondiale en France. Il me semble que c'est plutôt que ça,
Hit
même.
Hit Girl devrait sortir, en principe, avant la fin de l'année prochaine.
D'accord.
Pour que le Kick-Ass 3, qui n'a pas encore été édité, mais qui est en cours d'écriture ou qui est en finalisation d'écriture, puisse sortir l'année prochaine en BD, puis être adapté au cinéma.
D'accord, donc ça se fait vraiment en parallèle. Là.
Ah, mais
à ton avis, est-ce qu'ils font la BD pour, enfin le comic pour le film, ou est-ce que... Parce que ça doit brasser quand même pas mal de...
Moi, je pense qu'au départ, il n'y a pas eu de volonté de Marc Millar de faire une BD pour qu'elle soit développée en film. Bon, c'est le rêve de tout scénariste, hein,
ouais,
à mon avis, hein, de voir son produit montré sur grand écran, montré
valorisé
partout dans le monde.
Ouais.
Hein, parce que bon, bah, c'est quand même un marché plus large que le marché de la bande dessinée. Hein, qui couvre nettement plus de pays, donc Millar, bon, bien sûr, secrètement rêve à ce genre de truc-là, comme tous les scénaristes, mais Hit Girl, Kick-Ass au départ, n'était pas une bande dessinée où il se disait « Ok, je vais faire ça, et après, ce sera un film, il n'y a pas de problème, j'ai tout verrouillé, tout cadenassé. »
Pourquoi il date de quand, le premier Kick-Ass
Le premier Kick-Ass,
il est pas très vieux.
Non, c'est pas très vieux, ça doit dater de 2009-2010.
Ouais,
très récent. Le rythme est bien soutenu, en fait. Hein, pour Kick-Ass, sortie de Kick-Ass, puis la sortie de Kick-Ass 2, puis Hit Girl, disons que c'est.
Mais ces alternes, ouais, BD film. Plus en faisant des films sur des personnages secondaires, ils ont pas fini. Hein.
Non, disons que vu l'histoire et vu le développement de l'histoire, de toute façon, bon, bah, il va y avoir une conclusion, ça c'est clair. Il faut qu'il y ait une conclusion, hein, parce que sinon, bon, bah, on commencera à être dans la redite, de toute façon, pour l'instant. On a encore, depuis le départ, depuis le Kick-Ass 1, Kick-Ass 2 et Hit Girl, eh ben, dans la découverte, on a un monde qui s'enrichit au fur et à mesure, avec bon, bien sûr l'espèce de petit creux, de petit truc à côté qui est Hit Girl, mais enfin bon, c'est quand même elle qui est dans Kick-Ass, on va dire, l'un des personnages les plus intéressants.
Ouais.
Parce que bon, bah, si l'identification de la part des lecteurs de comics se fera plus sur Dave Lizeski, c'est-à-dire Kick-Ass, parce que bon, bah, c'est un type qui ressemble à n'importe qui.
À n'importe qui.
Hit Girl, bon, bah, c'est un petit peu plus difficile de s'identifier à elle. C'est une gamine qui a 11-12 ans,
ouais,
mais qui est
hyper charismatique.
Une tueuse implacable, quoi. Donc, c'est plus difficile, quoi, je veux dire.
Ouais.
Ou alors, il faut être un petit peu tordu, détraqué.
Il doit y en avoir.
Oui, c'est clair, clair. Bah, à mon avis, ne lise pas ce genre de BD.
Non, je ne pense pas.
Vous écoutez le Super Weekend numéro 353. Vous êtes sur Radio FMR 89.1.
Funky.
Thank you.
aimez perdre vos oreilles, c'était Xavier.
Et honte à moi, je n'ai pas retrouvé cette putain d'introduction des frères Fleischer.
Honte à toi.
Superman.
Honte à toi, mais tu la rajouteras, tu remonteras l'émission.
Non,
voilà.
Jamais, on
bah, quand
jamais.
Tu l'as pas, tu demandes.
Oh bah oui, mais je savais, je croyais, j'étais persuadé que je l'avais. Voilà. Donc.
Alors, nous allons parler d'un homme qui se promène en slip et qui a une cape. De qui, à votre avis, je parle ? Ah, c'est difficile, c'est une question à 10 000 euros.
Hiroshima,
Dupont.
Oui, voilà, Dupont. Pas du tout, Man of Steel, Superman, le fameux super-héros de notre écurie DC Comics, qui vient de sortir au cinéma un nouvel épisode. Le dernier daté de 2006, c'était Superman Returns, je pense qu'il nous a marqué pour chacun une raison, mais qui a plutôt été mal à... on va dire reçu par la presse et par le public.
Ce qui était bien dommage parce qu'il était pas mal.
Et moi j'allais dire que moi j'avais bien apprécié. Je me rappelle être allé le voir au cinéma.
À part, on va dire peut-être quelques longueurs.
Quelques longueurs, oui, mais
vraiment.
C'était du spectacle. On était fidèles aux comics. C'était moulant. C'était décoiffant. On était dedans. Mais là, nous avons une réadaptation, on va dire, une nouvelle vision de Superman. Donc je suis allé le voir mercredi dès la sortie. C'était bondé, ça cartonne, c'est je crois la deuxième meilleure résultat box-office cette année. Le premier était Django, je crois, qui avait fait des très bons résultats dès la première semaine. Donc là, ça crève les plafonds. Aux États-Unis, c'est un succès fou. Alors, est-ce que vraiment c'est un bon film ou pas ? Moi, je vais vous dire ce que j'en pense. Donc je vais pas vous rappeler qui est Superman, d'où il vient, mais très rapidement, c'est un petit garçon qui découvre qu'il possède des pouvoirs surnaturels et qu'il n'est pas né sur la Terre. Plus tard, il s'engage dans un périple afin de comprendre d'où il vient et pourquoi il a été envoyé sur notre planète, mais il devra devenir un héros s'il veut sauver le monde de la destruction totale et incarner l'espoir pour toute l'humanité. Rien que ça, donc. Plutôt un fardeau assez lourd à porter sur ses épaules, ce jeune homme. L'histoire du super-héros est donc racontée de manière non chronologique. On a vraiment des flashbacks en permanence, des ellipses en plus pouvoir. Et c'est une astuce qu'a trouvé justement Snyder pour éviter justement de nous rabâcher, de refaire la genèse de Superman. Parce qu'on l'a vu maintes et maintes fois, il y a eu une série...
Il y a eu une série, Smallville.
Smallville sur je ne sais combien de saisons. Donc tout le monde connaît Superman et... Voilà, ça, c'est du déjà vu, donc il a trouvé ces astuces-là pour présenter Clark Kent, finalement, jeune et adolescent, adulte, qui est un personnage en train, qui se cherche, qui... On voit ses parents adoptifs, la ferme où il a grandi. Voilà, mais tout ça s'est passé de manière assez rapide. Et donc ça, c'est une réelle astuce appréciable. La transformation en super-héros du coup arrive extrêmement vite dans la première partie du film. Tout de suite, dans les premières minutes, on va voir le costume, ça peut être assez déroutant. Moi, c'est vrai que j'aime bien personnellement voir un peu cette genèse, voir le héros devenir héros, monter. Bon, c'est pas ça qui va gâcher le film. La réalisation est, ma foi, bonne. Il a arrêté de faire ses ralentis en plus pouvoir là, et ses bullet time. C'était insupportable. C'était démodé.
Ouais, je pense aussi que la longueur du métrage.
Et il est extrêmement long. Ouais. Je crois qu'il dure 2 heures. Je ne sais plus exactement, mais plus de 2 heures.
2h40 donne l'impression d'en passer 3.
Ah oui, c'est ça, vraiment. Alors que tu vas voir Claude Atlas qui en dure presque 3, t'as l'impression d'en passer 1 et demie. Rien à voir. Donc on a un film qui peut déstabiliser certaines personnes parce que c'est filmé, tu sais, caméra au point avec des zooms, des effets de focus, des mises au point mal faites. Donc ça fait un peu genre le cadreur s'est pas réveillé le matin. Donc ça donne le vertige, surtout en 3D. Donc après, côté réalisation, voilà, ça passe, mais rien d'extraordinaire. On a un super casting, un casting de folie. Kevin Costner et Russell Crowe qui jouent donc les deux pères de Clark Kent. Donc pour l'anecdote, ce sont des deux acteurs qui ont incarné Robin des Bois. Donc Superman à Robin des Bois comme papa. Donc Kevin Costner qui fait Jonathan Kent.
Le papa.
Mais tu vois, c'est dans l'air du temps, le mariage pour tous. Là, donc, Superman...
On va en parler tout à l'heure des implications religieuses.
Superman se promène en slip et il a deux papas. Moi, je pense que c'est un message. Donc, Kevin Costner, qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, qui joue Jonathan Kent. Et ça fait plaisir de le revoir. Toujours aussi charismatique, malgré quelques années en plus. Russell Crowe, toujours aussi bon. On le voit beaucoup dans le film. Ça fait plaisir. Le méchant est inquiétant.
Alors, donc, c'est les deux pères. Donc, il y a un père terrestre et
un père kryptonien.
Ouais.
Et je ne vous dirai pas pourquoi on le voit, mais voilà, il y a des apparitions multiples de notre ami Russell Crowe, qui joue donc Kal-El. Le méchant dans ce film, c'est le Général Zod. Alors, est-ce que vous connaissez le Général Zod? Oui.
Oui, c'est un des méchants.
Donc, fini Lex Luthor et la corp.
Dans Superman, au départ, quoi, il y a le méchant terrestre, Lex Luthor, hein,
et
le méchant outer space, quoi.
Ouais, voilà. Donc là, le Général Zod, incarné par Michael Shannon. Est un des rescapés de survivants de Krypton et va venir un peu se venger sur Terre après des années d'enfermement parce qu'il a été condamné avec ses amis à vivre dans l'espace et à errer comme ça gelé dans un vaisseau spatial. Lois Lane, incarnée par une inconnue, Amy Adams.
Et je rêve, il connaît pas Zone Fantôme.
La Zone Fantôme, ça va, merci. La Zone Fantôme. Et alors, j'en parlerai après de la Zone Fantôme. Lois Lane, donc très charmante au demeurant, avec un nez en trompette et une rouquine qui, ma foi, dans la première partie, incarne très bien la Lois Lane qu'on peut connaître, c'est-à-dire forte, indépendante, assez charismatique. Deuxième partie, il faut l'oublier, c'est une cruche qui ne peut rien faire sans Superman, c'est déplorable. On peut voir très rapidement Laurence Fishburne, donc notre cher Morpheus dans Matrix, qui incarne le directeur du Daily Planet.
C'est toujours une promotion par rapport à celle-ci.
C'est ça. Donc, je disais, la première partie est extrêmement plaisante. On est assez surpris dans la façon dont le héros est traité. On le voit en tant que pêcheur, on le voit sur une plateforme pétrolière. Il erre dans les terres de l'Alaska aux États-Unis. Bon, alors on a un mec avec une barbe de 3 semaines et un corps bodybuildé comme jamais. Pourquoi pas, admettons. Bon, on n'a jamais vu Superman à ce point, mais ça peut le faire. Mais alors, la deuxième partie, ce n'est que de l'action. Imaginez Transformers, mais que la dernière partie. C'est ça pète de partout. Ça ne parle pas. Il y a des manques de cohérence énormes dans le comportement de Superman. C'est très long, vraiment. On attend qu'une chose, c'est que ça se finisse. C'est prévisible au possible. Donc, la deuxième partie, malheureusement, va un petit peu nous faire en sorte qu'on va un peu rester sur notre faim. Ça laisse un sentiment un peu de je vais en foutre plein la vue, il y a de la 3D, il y a des effets, et bon, voilà. C'est dommage. Les dialogues, alors là, j'ai envie de dire, les dialogues ont le même intérêt et la profondeur non d'égal que l'encéphalogramme d'une grenouille en hibernation et les seins de Jane Birkin, c'est-à-dire qu'ils sont relativement plats. On a du genre du « je suis un méchant, je vais te taper », voilà, à peu près, donc c'est Expandable version Superman. Sinon, à part ça, l'acteur, alors je sais pas si vous l'avez déjà vu, c'est un anglais, donc l'acteur qui incarne Superman est un
Henry Cavill.
Ouais. Henry Cavill qui a. Alors on l'appelle le malchanceux d'Hollywood. Il avait postulé pour James Bond, mais c'est Daniel Craig qui a eu le rôle. Il avait postulé pour Dark Knight.
Écarte-toi, petit.
Et dans le précédent Superman Returns, il avait postulé également. Mais
écarte-toi, petit.
Voilà, donc là, il a enfin réussi. À obtenir le rôle. Alors, il ressemble énormément.
Il n'a pas de bol, c'est pas le monde.
Bon, voilà. Mais alors, il ressemblait beaucoup à Christopher Reeves. Dans le jeu, je dirais pas, mais physiquement, c'est troublant. On aurait aimé que cet acteur, à mon avis, qui a du potentiel, joue un peu plus, parce que là, il est inexpressif, c'est-à-dire que vraiment, les sentiments. Alors, il est kryptonien, il est pas terrien, bien sûr, hein. Ça s'exprime pas de la même façon, mais ça manque vraiment de relief. Il est plat, il est inexpressif, et c'est un peu dommage. Après, des petites anecdotes, donc le costume beaucoup plus moderne, on a fini les couleurs flashy, le slip par-dessus, là on a une combinaison inspirée du comics New 52 ou quelque chose de vraiment plus, ça fait combinaison de moto un peu comme le Batman, voilà, donc ça fait, on y croit un peu plus. Et on y apprend une petite anecdote d'ailleurs sur le S qui est sur son torse, donc je n'en dirai pas plus. Donc voilà, donc un film un petit peu qui tire sur la longueur. C'est du grand spectacle, on se fait plaisir, mais j'ai peur que les voilà, il y a eu tellement d'attentes sur ce film depuis 2006, on l'attendait. Enfin, je sais que les fans l'attendaient depuis un moment. Bon, mitigé. Vous pouvez aller le voir, mais ne vous attendez pas à quelque chose d'extrêmement ouf, comme on peut le lire et l'entendre partout sur la toile. Je pense qu'il y a une grosse pression de DC Comics pour vendre le truc.
Alors, mais, une pression tellement importante que ça en est hallucinant. D'abord, il y a eu un excellent article dans Les Échos qui est sorti courant de cette semaine sur en fait la différence de revenus sur les deux franchises. Alors, quand on compare DC Comics à Marvel, DC Comics a rapporté entre 78 et 2013 8 milliards de dollars sur les différentes franchises, donc oui. Batman, Superman, entre autres, alors que Marvel en a rapporté 13,6 avec Avengers, Spider-Man, X-Men, Blade. Il y en a d'autres derrière, mais c'est clair que DC en fait s'est intégré depuis de nombreuses années quand c'est même vrai. Au sein du groupe Warner. Et en même temps, Superman, Batman, oui oui, Superman, Batman, ce sont des personnages qui sont protéiformes, c'est-à-dire que vous pouvez très bien les trouver dans des versions pour enfants. Il y a qu'à regarder le matin sur la 4 The Bold and the Brave, ouais. Ou la Ligue des Justiciers, c'est un Superman et Batman qui sont truc pour gamins quoi.
Ils sont copains,
d'un autre côté, on peut faire les versions noires très hardcore avec tout ça. On ne peut pas imaginer une version complètement pas ado mais sous ado quoi, pré-school de X-Men. Ça ne marcherait pas. De même que Spider-Man, Spider-Man c'est le seul à la limite qui peut s'y mettre entre les deux, hein. Ultimate Spider-Man
Spider-Man c'est quand même un petit peu spécial, hein, parce que Spider-Man a toujours une volonté d'attirer les plus jeunes, même dans les Spider-Man qui sont matures, on va dire. On garde toujours une partie d'humour. Il y a toujours de l'humour, hein, dans Spider-Man. Je parle des comics, bien entendu, pas des films. Mais Spider-Man est un éternel adolescent, oui, on va dire. Volonté des scénaristes actuels de faire grandir Peter Parker et de le faire devenir adulte, hein. Il a un boulot, il a une petite copine, il a son appart, enfin bon, voilà, c'est un jeune homme rangé, on va dire. Mais il garde toujours son âme, pas d'enfant, mais d'adolescent, à faire des vannes pourries des fois. C'est carrément le gimmick, hein, quand il cause avec Logan, par exemple. Ils se balancent des fions l'un l'autre et tout, ça fait partie du show, c'est, hein, c'est carrément génial. C'est même des moments qui sont des fois vraiment impeccables. Il y a souvent des histoires d'ailleurs où le duo est reconstitué, parce que c'est toujours un bonheur de les voir les deux ensemble se balancer des fions et tout, mais quand même se battre côte à côte, ou des fois être l'un contre l'autre, c'est arrivé aussi, hein, bien sûr quoi. Mais bon, Spider-Man lui, de ce côté là quoi, il y a pas de problème, il reste vachement accessible. Le problème avec Superman, c'est que c'est un type qui n'a pas de personnalité, c'est un type qui est fade, il est bloqué intellectuellement par beaucoup de choses. Ce n'est pas un humain, ce n'est pas un terrien,
les scénaristes qui le reprennent d'ailleurs souvent ils font dire via la bouche de Batman le Boy Scout ou ce genre de choses, c'est la rectitude. Et en même temps, c'est vrai qu'il a peu d'épaisseur, mais par contre moi je suis pas tout à fait d'accord. Là où c'est intéressant et là où je voulais en venir par rapport justement à la variance par rapport à la variance du personnage,
quand même.
Du personnage, c'est ce qui est intéressant dans Superman, c'est ce que l'on peut en faire. C'est-à-dire, il n'y a pas une chronologie officielle, maintes fois a été rebootée comme pour la plupart des super-héros, mais c'est tous les petits à côté. Par exemple, il y a eu de la série Superman Confidential, Kryptonite, où Darwin Cook et Tim Sale en font une version années 60 assez fun graphiquement, et où il est emprunt. C'est-à-dire, tu le vois, ils suivent un mafieux supposé. Donc, il y a un travail d'enquête. Les journalistes du Daily Planet sont envoyés en planque et tout ça. Et tu les vois en planque. Et en même temps, tu vois Superman face... quand il est en Superman face à Lois Lane, il est emprunt. Il fait « Oh, tu étais là, tu sais, au moment où il vient de sauver, un truc comme ça. C'est très amusant. Si on prend Droit du sang, non, pas tant que ça, mais Superman Red Son, ça c'est une uchronie complètement géniale vis-à-vis du personnage. On imagine que Superman, Kal-El, arrive sur Terre, mais côté URSS. Et on réécrit toute l'histoire avec Lex Luthor en président des États-Unis. C'est vraiment intéressant. C'était vraiment une BD qui nous avait bien marqué, qui était vraiment hyper bien foutue de ce côté-là. Et c'était intéressante. Sans compter Superman Identité Secrète, où là, on suit les aventures finalement d'un type qui a le tort de porter le nom de Clark Kent alors qu'il n'est pas Superman. Et qu'il en a ras-le-bol, c'est-à-dire à tous les anniversaires, il reçoit des t-shirts, des goodies, etc. Il les enterre, il en a marre, il fout le feu, et il devient journaliste au New Yorker. Et ça, c'est génial. Voilà, c'est ça que j'aime bien dans le personnage Superman. Peut-être qu'il est plat et tout ça, mais il a une ouverture.
Non, mais justement, il est plat, ce qui permet justement aux scénaristes de pouvoir en faire pratiquement n'importe quoi, et de pouvoir avoir une imagination complètement débordante, parce que le cadre est nettement plus lâche et nettement plus libre.
Il y a tellement de déclinaisons.
Que dans d'autres super-héros comme Batman, comme Spider-Man, qui ont une histoire bien précise, qui ont des repères temporels qui sont bien précis, des familles existantes ou non, mais ce sont des repères. Alors que Superman, les seuls repères qu'il y a, c'est il vient de la planète Krypton, il est journaliste, il travaille, c'est son undercover, il s'appelle Clark Kent, et point à la ligne. À partir de ça, c'est plus ou moins une page blanche qui permet justement au scénariste de se dire, je vais l'utiliser comme ça, et ça peut produire un truc assez intéressant. Il y a également tout l'arc la mort de Superman, qui est aussi vachement bien foutu, et qui avait été écrit je me rappelle pas par qui, mais c'était aussi vraiment très très bien. Peut-être que tu peux le trouver, toi qui es sur le truc.
Sur Twitter, on me fait remarquer que Russell Crowe, jeune, chantait avec son groupe I Wanna Be Like Marlon Brando. Marlon Brando, ça y est, c'est fait. Donc voilà, celle-là, elle est pas mal. Mais c'est vrai que de ce côté-là, il y a à faire avec le personnage de Superman. Et j'ai l'impression qu'ils ont eu trop peur, ils ont voulu trop suivre en fait la voie d'Arc.
Ouais. Je sais pas s'ils ont
alors
prévu
que, là, alors de... que justement ça avait fait la une, la mort de Superman en comics, ça avait fait la une de les ouvertures des JT aux États-Unis.
Ah oui.
C'était Superman's Dad.
Comme s'il existait.
Il revenait dessus, il revenait sur le mythe américain construit là-dessus, comme quoi c'est un personnage qui est aussi emblématique finalement que Oncle Sam et tout ça. Et c'est vrai qu'ils avaient tenté de relancer le personnage. Superman est un... Si on lit le Superman de 1939, si on lit celui de 1963, si on lit celui de 1980, celui actuel, sur le mainstream, on a des personnages qui sont très différents, extrêmement différents. Ils ne volent pas dans la version originelle de 1939, ils sautent.
Ils sautent, oui.
Il a un sidekick dans la version de 1960, j'ai oublié le best friend de Superman, j'ai oublié comment il s'appelle d'ailleurs, Jimmy Olsen, un truc comme
ça.
C'est un personnage qui a vraiment évolué, quoi. C'est comme Batman d'ailleurs, mais il a toujours eu cette époque à travers le temps, quoi. Ouais, j'ai essayé.
Non, parce que moi je me souviens vraiment de la série les nouvelles aventures de Lois et Clark. Enfin, ça a duré très longtemps. C'était...
Ouais, je crois qu'il y a eu 8 ou 9 saisons,
ça c'est encore une démonstration de ce qu'on peut faire avec Superman.
C'était traité manière soap finalement.
On traite ça manière soap.
Métropolis.
On se focalise sur les relations entre Lois et Clark d'où le titre, bien sûr. Mais ça n'empêche pas que Superman va quand même agir dans cette série, va quand même remplir son rôle, on va dire pour amuser la galerie, c'est-à-dire revêtir son beau costume et sauver le monde, ou au moins Métropolis.
Un petit sourire Colgate. Alors tous les problèmes du monde sont à Métropolis, il faut le savoir. Dès qu'il y a une merde, c'est là. Moi je m'en souviens quand j'étais gamin, je regardais ça avec plaisir et c'était tout public. Il était plat, il était fat, c'était attendu, mais voilà, ça te faisait...
Pour revenir au côté mercantile et marchand de la chose, faut savoir que c'est Zack Snyder. Zack Snyder, donc à la réalisation, qui nous avait fait les Watchmen, tout le monde est sorti.
Il a fait 300 aussi.
Il a fait 300 aussi, quoi. Bon, mais ok, il n'y a pas de problème. Et si Warner DC lui confie ce truc-là, allez, vas-y, tu t'y colles. Et certainement qu'il avait envie de le faire. Hein, parce que bon, bah, c'est le rêve de beaucoup de gens de pouvoir se taper une fois l'occasion de montrer quel est son Superman. Là, les attentes sont très très fortes et c'est le film qui, en termes de vente de produits dérivés, qui en termes d'entrée au cinéma, va rapporter un certain nombre de pognon.
Et qui rapporte
mais il y a un plafond qui doit être atteint pour que Warner et DC puissent sortir ce qui est prévu et essayer de le full frontal face à Marvel, parce que cette Ligue des Justices qu'on on l'attend depuis. Je crois qu'on l'attend depuis avant le projet Superman de Zack Snyder, il me semble. Quoi. Donc,
il me semble que ça date. Les rumeurs les plus sérieuses, c'était au moment du succès du premier X-Men, le deuxième était sorti, il commençait à lever les fonds. Parce qu'évidemment, ce genre de budget de film. Ça
en est où là ?
Alors, pour l'instant, ils sont dans le même trip que Marvel, c'est-à-dire on construit les personnages les uns après les autres pour en faire quelque chose.
Voilà, c'est ça.
Pour faire le film de groupe.
D'où la sortie de Green Lantern à l'été dernier, hein, parce que Green Lantern fait partie également de cette galaxie, quoi. Et Green Lantern qui s'est lamentablement planté, faut le dire.
Voilà. Alors là, ils ont mis la barre très haut. Et est-ce qu'ils sont pas allés un petit peu loin ? Parce que Warner est allé a fait un type de marketing qui commence à faire beaucoup de bruit et à remuer beaucoup, même aux États-Unis. Puisque ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont monté un site, ils ont embauché un groupe de communication spécialisé auprès des médias chrétiens pour dire Superman est le nouveau Messie.
Oui.
C'est l'un des journalistes de CNN qui raconte ça sur son blog, Eric Marapodi. Donc ils ont carrément proposé des sermons clés en main qu'ils ont envoyés à toutes les églises disant regardez Superman, le scout, etc. Et c'est la preuve que le fils de Dieu, etc. Mais où c'est qu'on va si on en est à ce point pour transformer un personnage de fiction pur, qui est un personnage de fantasy, qui est un personnage de bande dessinée, a été écrit par deux juifs. Et moi, je me souviens quand même du dessin qui avait, du New Yorker qui avait été fait par. J'ai oublié qui était l'illustrateur. Il a eu le prix d'Angoulême l'année dernière. L'illustrateur qui a fait. C'est celui qui a dessiné À l'ombre des tours mortes et tout ça. Il avait fait un super juif avec la Torah sous le bras et tout, etc. Vraiment pour justement un gros dossier qu'avait fait The New Yorker là-dessus sur toutes les allusions qui avaient été faites justement sur Superman là-dessus, le peuple, à la fois le peuple élu et à la fois donc le juif errant et tout le reste. Et là, c'est rapatrié sur on va faire un truc de foi chrétienne, etc. Un truc qui n'a rien à voir, à mon sens, qui n'était même pas dans l'idée des auteurs d'origine. Est-ce que Warner n'a pas franchi la ligne jaune? C'est le gros débat de société qui arrive depuis cette semaine, justement depuis cet article et ce dossier qui a été publié sur CNN.
Comme tu le dis, c'est une équipe de com qui a été engagée. La com, le but, c'est de faire parler du film. Là, en l'occurrence, ils ont réussi leur coup parce qu'ils savent très bien que ça passera pas en tant que nouveau Messie. Mais le fait est que tout le monde en parle, que ça fait une sorte de buzz, ça crée la polémique. Et c'est ça qu'ils recherchaient, c'est tout. Regarde, ça marche, on est en train d'en parler. Bien sûr.
Mais est-ce que le film est bon ?
Alors maintenant.
Alors, il faut que je te donne une réponse franche et définitive. Moi, je le trouve pas bon. Parce que je pense qu'on est. Justement, les films de super-héros en ce moment, on en a beaucoup. Il y a les Marvel qui en sortent un chaque année, quasiment, voire deux. Ils sont, je trouve, de qualité. Les personnages me semblent fidèles et on a vraiment des histoires originales. Là, moi, DC prévoit de faire la Ligue des Justiciers avec un personnage tel que je l'ai vu là de Superman, je pense que ça va être compliqué. Ou alors, c'est pas leur plan.
Alors, est-ce que tu vois bien donc le Superman que tu as vu avec le Green Lantern et les autres ?
Pas du tout, parce que déjà dans le film avec les personnages récurrents, il a aucune interaction, il est plat. Après, c'est peut-être le personnage qui est comme ça, mais moi, je pense qu'on l'attend d'une autre façon. À la fin, il y a une ouverture, j'en dirais pas plus. Mais non, je vois pas du tout un Superman avec un Green Lantern ou Non, enfin non vraiment. Là, définitivement, non.
En tout cas, toutes les références, on est en train de les poster en même temps sur Twitter. C'est pour ça, des fois, vous ne nous entendez pas trop. Voilà, on les poste au fur et à mesure. Comme ça, vous pouvez retrouver sur le site du Supplément Weekend et dans notre overblog tous les détails.
Et si vous avez vu le film,
si vous avez vu le film, n'hésitez pas. Allez-y, dites-nous pourquoi vous l'avez aimé, pourquoi on est des connards, pourquoi finalement on n'a pas les yeux d'enfant qu'il faut pour aller voir ce superbe spectacle. J'ai appris il y a 2 mois. Il y a une bande-annonce qui avait été faite avec une voix d'un alien, une image brouillée de télévision, etc. Et en fait, comme quoi, je viens d'une autre galaxie, je viens pour vous libérer, pour vous changer les idées, etc. Ça reprenait mot pour mot un moment célèbre de piratage d'une chaîne de télé anglaise, il me semble d'ailleurs, au début des années 80, où quelqu'un s'était branché sur un émetteur en fait et avait fait passer n'importe quoi comme un message à la con. Et ils ont repris le texte intégral, ils l'ont passé tel
même
que.
Texte.
Voilà, et à ce qui paraît, il est réutilisé tel que dans le film. Donc je ne sais pas.
Ah,
je trouve que
anecdote.
C'est amusant, c'est assez
possible.
Amusant comme idée.
D'accord, c'est possible, oui.
Donc voilà. Voilà. Du
mais
sport,
voilà. Mais ça reste
peut-être que rapidement, je sais pas, il y a eu donc la série des frères Fleischer qui était produite en 40-41, même pas 9 mois
oh oui.
après le début du comics, avec une animation magnifique.
Le temps d'accouchement.
Ouais. Qui a donné, ce qui a donné beaucoup plus tard à la Warner l'envie de faire de cette manière-là un Batman et un Superman. Qu'est-ce qu'il y a eu comme série? Il y a eu des sériales, un en 48 et un en 53 si je me trompe.
Ben, celui de 53 est le plus connu d'ailleurs, hein, c'est celui qui est interprété par George Reeves, dont on a
homonyme,
tourné une bio. On a tourné une bio de ce mec hein, d'ailleurs, et un film, même 2 films me semble-t-il, hein, parce qu'il est mort de façon assez douteuse, hein, l'acteur quoi, George Reeves, et il a le même nom hein, que Christopher en fait quoi, et aucun lien de parenté.
Aucun lien.
Mais bon, c'est assez amusant de voir qu'on a repris un acteur qui portait le même nom que Reeves quoi, donc qui était le personnage qui a bien développé à la télé hein, parce que bon bah c'était dans les années 50, tous les foyers américains possédaient une télé pratiquement, enfin énormément, et donc bah n'avait pas le choix, soit on sortait s'arsouiller dans le bar du coin, soit on restait devant chez lui quand on faisait partie de la famille type américaine.
Ouais.
Et on avait droit donc à Superman, donc qui a ravi des millions et des millions de téléspectateurs et de téléspectatrices.
Mais je pense que là, pour la grande majorité du public, ça a été, Superman est connu de par le cinéma et la série télé, et pas, je pense pas de par le comics. Ou en tout cas, je pense à une génération. Peut-être telle que la mienne, par exemple, ou celle d'avant.
Bah, non, mais le personnage Superman.
On
en fait,
sait que ça vient d'une.
Mais tu les avais dans tous les kiosques en France.
Oui, ouais, mais je.
Parce que pour
on peut demander c'est un mec,
On peut demander à pratiquement n'importe quel ricain de n'importe quel âge quels sont les personnages iconiques venant des États-Unis.
Bien sûr.
Il y aura Superman, il y aura Elvis Presley, il y aura je sais pas qui encore, mais enfin bon, eux sont en très bonne place. Hein, ils font partie du top 5 de toute façon.
Hein. Ouais. Non mais bien sûr, mais tout le monde connaît. Enfin, qui ne
mais
connaît
voilà,
pas
c'est
Superman
ça. Tout le monde connaît.
Après
même
la façon
les gens
de le découvrir,
qui n'ont jamais
de connaître,
lu
mais...
une BD de Superman savent qui est Superman.
Voilà.
Superman.
Mais
pardon.
Je suis d'accord. Mais après c'est vraiment la façon de le support original n'est pas forcément le média de diffusion le plus répandu pour faire connaître Superman. Et le cinéma de toute façon en ce moment ça accapare de tous les regarde le comics. Tous les comics sont au cinéma maintenant. Voilà. Bientôt, on va devoir rebaptiser le supplément week-end. Ça sera le supplément cinéma, j'en sais rien.
En attendant, Urban Comics, puisque c'est eux qui ont les droits sur les productions DC actuellement, hein, et qui font les traductions. Peut-être qu'on aura à nouveau une ressortie justement des spin-offs là qu'on a parlé.
Ouais. Oui, il y a des ressorties. Hein, de toute façon, Superman va ressortir très bientôt. Si c'est pas le cas déjà là maintenant en juin, ou sinon ça va être en juillet.
Ouais, parce que Identité secrète, c'était 2006. On l'avait chroniqué en 2006. Red Son, oui, il est ressorti lui.
Identity Crisis, ça faisait partie de cet énorme crossover de DC hein, qui englobait l'ensemble de l'univers DC, de toute façon, avec tous les super-héros de DC.
Façon Avengers ou...
Ah non, c'était un truc choral, genre, avec vraiment.
Ah, il a dit choral!
Oui, pour une fois, c'est moi qui le dis. Avec l'ensemble de tous les personnages qui ont été développés par DC au fur et à mesure des décennies. Et qui a duré, je crois, ça a duré un peu plus d'un an, hein, cette histoire. Ça a duré, je crois, 14 ou 16 mois. Et ça a relativement bien marché, il faut dire. Ouais. Bon, enfin, ça a aussi jeté pas mal de lecteurs dans l'expectative, parce qu'ils se sont dit, mais où est-ce qu'ils veulent en venir avec cette histoire-là ? Parce que, bon, c'était quand même un truc assez énorme. Hein. Il fallait acheter l'ensemble des bandes dessinées consacrées aux différents super-héros pour avoir une vision d'ensemble de ce truc qui s'appelait Identity Crisis, quoi.
Identity Crisis, ok.
Et qui a été suivi après par un deuxième crossover, hein, qui s'appelait Crisis on the Other World, un truc comme ça, hein, dans le style, et qui voulait en fait faire un reboot pas mal de personnages principaux pour ils voulaient donner un 109, on va dire, aux personnages, les dépoussiérer.
Niveau marketing, ils sont forts. Quand
ils
même,
sont hein. forts. Ils sont très ils forts. Sont forts.
Et Marvel a quand même un petit truc d'avance.
Ah ouais.
Ah oui.
Vous écoutez FMR, il me semble. Ah non, pas exactement. Oui, bah c'est le supplément week-end numéro 353 et on va continuer. Allez, petite veillée funèbre, s'il vous plaît. On vous le passe en entier. Woke up this morning, F3.
I'm gonna go home, but when I woke up,
Que de violence.
Là c'est le remix d'Eclectic Method, donc en hommage à la série Soprano, mais ce n'est pas que ça qu'il a fait d'ailleurs, hein, heureusement. Il a beaucoup fait aussi dans cette série pour les éboueurs du New Jersey qui jusque-là étaient considérés comme étant un ramassis juste de syndiqués qui se mettaient en grève pour un oui ou pour un non.
Et ils se lèvent tôt.
Ah oui, mais bien sûr.
Ok, on parle peut-être... bien entendu pour ceux qui sont au courant de James Gandolfini qui est mort au début de la semaine. Il était en voyage en Italie au festival de Taormina. Il était en train de conclure des contrats pour réaliser un film il est mort d'un AVC, je crois, d'une crise cardiaque.
Pendant qu'il signait?
Non.
Le montant était si élevé que ça?
Et donc, il est mort à l'âge de 61 ans, puisqu'il était né en septembre 61.
Pas vieux.
Faites le calcul. Hein, 51 ans.
Il est né en combien, t'as dit?
51 ans, il est né en 61. Donc, il est né en 51.
On est en 2013.
Il est né en 61, il avait 51 ans.
Voilà, chers auditeurs, si vous trouvez la réponse, tout est là.
Voilà, mais c'est ça. Alors, James Gandolfini commence sa carrière dans les années, fin des années 70, on va dire. Il fait partie de la même bande d'acteurs qui ont fait, bien entendu, ils ont suivi les cours de Lee Strasberg, qui a suivi également toute la génération des De Niro, Keitel et tout ça, début des années 70, des années 60, à New York. Lui, il était plutôt de la promotion Alec Baldwin, Jessica Lange et tout ça. Il commence plus ou moins sa carrière au théâtre, comme tout bon acteur américain qui se respecte. Bon, je sais que maintenant, c'est plus la mise, parce que maintenant, il suffit d'avoir une belle gueule et d'être paru dans deux ou trois pubs qui ont bien marqué pour pouvoir... figurer dans une série parce que t'as une belle gueule et puis on peut faire aligner quatre mots.
Le jaloux, il est jaloux.
Mais non, mais c'est vrai, hein, c'est vrai. Alors que tu as plein d'acteurs, plein d'actrices qui ont suivi un cursus normal et qui ont appris vraiment leur métier. Ouais. Parce que c'est quand même un petit peu un métier, hein,
un petit peu,
on va
hein.
dire. Un peu.
Comédien.
Quoi. Et qui n'auront jamais
un peu comme les chanteurs.
Cette chance-là, on
ça
va dire. C'est la chance de se retrouver avec la responsabilité de tenir un film, de tenir. Une série sur ses épaules. Et là, Gandolfini a eu de la chance, sur le tard d'ailleurs, hein, de trouver donc cette interprétation de Tony Soprano dans la série de David Chase. Mais Tony Soprano, on l'a déjà vu avant quand même, hein, puisque c'est quand même lui, un des tueurs sadiques dans True Romance de Tony Scott, où il est absolument génial. De toute façon, il avait également sorti d'autres petits films. Il faut dire que rôle secondaire qu'il avait avant les Sopranos. Après, il est passé un petit peu à la vitesse supérieure. Il était plus visible, c'est clair. On savait qui était James Gandolfini. Ah, c'est Tony Soprano. Et donc, il a pu jouer des premiers rôles, côté de Brad Pitt dans Le Mexicain, par exemple, ou dans d'autres films un peu plus intéressants, à mon avis, que Le Mexicain. On en parlera un petit peu plus tard dans la rubrique télé.
Ah,
ouais. Alors, Les Sopranos, cette série donc créée et imaginée par David Chase, née dans le New Jersey et qui, pour l'anecdote, pour on va dire pour la blague, peut-être parce qu'il a vraiment vécu, a connu des gens comme ça. Donc, n'a fait que décrire ce qu'il avait connu, ce qu'il avait vu et entendu quand il était un petit peu plus jeune. Et il a choisi de prendre un angle un petit peu différent dans Les Sopranos, ce qui fait que la série a vachement marché de toute façon. Alors, il faut savoir que cette série, Les Sopranos, a été couronnée meilleur scénario de tous les temps par l'ACW, c'est-à-dire l'association des scénaristes des États-Unis, d'Angleterre, enfin bon.
Ce qui est assez amusant, c'est comment elle a acquis une notoriété monstrueuse. C'était lors de la première saison, à la fin de la première saison, en fait.
Ouais, moi, j'avais vu
il y a une chaîne, il y a une chaîne aux États-Unis qui s'appelait juste Court TV d'ailleurs. Hein, elle a changé de nom, elle a changé de nom entre temps, qui diffuse en fait des procès.
Toujours.
C'est devenu autre chose entre temps.
Non, il y a d'autres chaînes qui font la même chose, mais il y a toujours Court TV.
Donc ils diffusent. Ils diffusent les procès, en fait, les audiences, etc.
C'est du voyeurisme.
Exactement. Mais il y avait un procès d'un groupe mafieux sur la région de la côte Est, et c'était diffusé aussi dans les journaux télévisés nationaux. Et en fait, on passait les mafieux qui étaient à la barre, qui étaient les accusés, ont passé en même temps, donc, la preuve qu'il y a une entente, vous avez dit ça lors d'une table d'écoute, etc. Et on passe à table d'écoute. Et on passe les conversations en entier. Et en fait, entre eux, la moitié du temps, il part de « T'as vu cette nouvelle série sur HBO et tout ?»« Ah ouais, 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 c'est trop amusant parce que le mec nous a pas loupé, etc. » Et ils ont parlé de ça. C'est comme ça que la série a une notoriété. C'est uniquement fou, parce que les mecs qui caricaturaient racontaient plus ou moins, en fait, l'épisode de la veille, etc. Et ça passait au tribunal.
Putain.
Et ça fait partie de la légende en fait de la série.
Oui, oui, enfin, c'est d'une des anecdotes, hein, il n'y a pas eu que ça, mais enfin, il faut quand même retenir que ce qu'il y a d'essentiel, c'est quand même le talent d'écriture de David Chase et de ses scénaristes, hein, parce que c'est une série
qui se
tient de bout en bout. Il n'y a pas de faiblesse à un moment donné. Il y a peut-être un ou deux épisodes qui sont un peu plus légers, on va dire.
Il y a des bons acteurs.
Mais sinon, c'est interprété de façon absolument magistrale. Ah, il faut savoir que,
ils ont des gueules, les mecs.
Au départ,
ils ont des gueules.
Il faut dire qu'au départ, David Chase, qui n'était quand même pas un petit poussin de trois jours, hein, dans le monde de la télé, avait proposé sa série, avait été refusé plusieurs fois. Une chaîne lui avait dit « Ok, mais il nous faut quand même le personnage principal, c'est-à-dire Tony Soprano, qui soit une figure que tout le monde connaît. » Et en principe, ça aurait dû être Ray Liotta, qui aurait dû interpréter le rôle de Tony Soprano. Et il s'est fait que c'est quand même Gandolfini qui a eu le rôle. Et ça a ajouté à la crédibilité de la série, parce que l'ensemble du grand public ne connaissait pas les acteurs qui étaient dedans. Les acteurs connus, parce que naviguant dans le monde de la télévision, des séries télé, mais le grand public qui va uniquement au cinéma, qui en a rien à foutre plus ou moins des séries, parce que la plupart des grosses séries intéressantes dans les Sopranos ne passent pas sur les chaînes, les top chaînes aux États-Unis, CBS, ABC et NBC, mais sur des réseaux tels que HBO qui a donc diffusé les Sopranos, mais il y avait également Showtime, il y a également...
Voilà, ce sont des chaînes qui sont payantes.
D'autres petites chaînes.
Ce sont des chaînes qui sont payantes, surtout qui ne passent pas de publicité, qui n'entrecoupent pas, en fait, ces épisodes avec la pub.
Super.
Donc l'écriture est très différente. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de te faire un cliffhanger au moment de la coupure publicitaire. Donc en fait, on peut faire une scène qui est longue, une scène de billard, ou bien Tony Soprano qui se fait enguirlander par sa mère. Oui, où il a une putain d'envie de la buter immédiatement, là, de suite. Mais ça se fait pas, c'est sa mère, etc. Ils peuvent le faire pendant 15 minutes, alors que c'est quelque chose qui n'est pas faisable sur une série qui passe sur la Fox ou même sur Syfy. Tout simplement parce que voilà, il y a des coupures publicitaires et si jamais l'épisode est trop chiant, les gens vont... zapper. C'est vraiment une logique d'écriture qui l'emporte plutôt que sur une logique de maintenir l'audience.
Ça se fait de moins en moins quand même, j'ai l'impression. Maintenant, les séries...
Si, aux États-Unis, ça existe encore justement via HBO, via Showtime, et ça commence à revenir de plus en plus.
Ouais,
on le retrouve même maintenant sur les chaînes qui passent de la pub. Les chaînes câblées, je veux dire, commencent à revenir justement à ce genre d'ambiance.
Parce que tu regardes un Game of Thrones, t'as pas du tout ça, enfin... Je vois très bien ce genre de série. Les séries maintenant sont très regardées. Les gens achètent les DVD, les regardent sur internet. Il y a d'autres moyens de diffusion. Et j'ai l'impression que maintenant ça devient vraiment des courts-métrages. Enfin, t'as des épisodes d'une heure. Game of Thrones, ils font 55 minutes.
Et qui est le producteur?
C'est le format, hein, d'un épisode de série. Hein. 55 minutes, c'est 5 minutes de pub plus 55 minutes de programme. Ça fait une heure.
Sauf que Game of Thrones est diffusé sur.
HBO. HBO, ouais.
Voilà, donc c'est leur truc aussi. Là-dessus, quand ils ont commencé, ça a été, je crois, l'une des premières séries, hein, qu'ils ont réussi à faire diffuser sur d'autres chaînes d'ailleurs.
Il y avait eu une autre série, mais qui avait eu moins de succès. Hein. C'est pas la première grosse série de HBO, quoi. Mais c'était la série qui effectivement a imposé HBO comme étant la chaîne novatrice, la chaîne qui ose. Proposer des programmes qui sont un petit peu dérangeants, un petit peu violents. Bon, c'est le cas de Soprano qui montre du sexe. Alors après, ça a été un petit peu dommage pour HBO parce que HBO a continué dans ce domaine-là, mais en délaissant un petit peu le talent d'écriture, en imposant de la violence et du sexe, mais sans fond. Donc, ce qui fait que ça a donné des séries qui étaient un petit peu moins regardées, peut-être,
tu penses
un peu plus regardées, mais qui étaient certainement un petit peu moins intéressantes.
Pense à quelle série?
Là, j'ai vraiment pas de truc en tête. Ouais, enfin, il suffirait de regarder la liste des séries qui sont sorties HBO. Après, ils sont tombés dans pour s'en rendre compte de toute façon, quoi.
6 saisons, je crois, pour Soprano. Si je me souviens. Ouais. Sachant que les dernières saisons, ça a été très compliqué, justement, parce que l'acteur principal souhaitait en sortir, souhaitait reprendre son indépendance.
Et, oui.
Et la série n'aurait pas marché sans lui, donc les négociations ont été très difficiles. La deuxième saison, la dernière saison, pardon, a été tournée, je crois, en 3 fois. Diffusée en 3 fois, ça a été assez compliqué.
Et c'est HBO qui produit ou pas?
Oui, oui.
Ouais, c'est...
Ah oui, tout à fait. Okay. En propre. Du sport, tu voulais un morceau. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi?
Alors, bah, c'est un morceau qui fait partie de la bande originale de The Sopranos, hein, qui est sorti, je crois, à la troisième ou la quatrième saison, avec donc le générique, qu'on a entendu, hein, de Alabama 3, qui a été renommé A3. Alors ça doit être une histoire de contrat à mon avis.
Ah tu penses?
Je pense, à mon avis. Je pense que la maison de disques sur laquelle sortit le disque n'était pas la même que celle qui était sous contrat avec l'autre. Allez. Donc hein, c'est pas grave. On a un autre nom, c'est comme ça. Et je sais plus ce que je voulais
dire. C'est ce qu'on va écouter.
C'est Frank Sinatra.
Voilà, c'est Frank Sinatra. Sinatra qui fait partie du monde de la mafia quand on parle des États-Unis, ouais. Quoi. On parlait d'icône, hein. Sinatra est une icône comme Elvis Presley, comme Superman, hein, de toute façon, quoi.
C'est sûr.
Et le morceau a une. Vous écoutez les paroles, le morceau a une
signification,
assez spéciale. Un petit peu spéciale.
On écoute ça.
It was a very good year. It was a very good year for small town girls and soft summer nights. We'd hide from the light on the village green. When I was 17, when I was 21, it was a very good year. It was a very good year for city girls who lived up the stair with all that perfumed hair. And it came undone when I was 21. When I was 35, it was a very good year. It was a very good year for blue-blooded girls of independent means. We'd ride in limousines. Their chauffeurs would drive. When I was 35.
But now the days are short. I'm in the autumn of the year, and now I think of my life as vintage wine from fine older kegs. From the brim to the dregs, it poured sweet and clear. It was a very good year.
So long, au revoir Tony.
Les scénarios se suivent et se ressemblent, les héros s'en sortent toujours et on aime toujours ça, c'est la loi des séries.
Du sport ma foi,
oui.
Ce soir.
Alors là.
Alors qu'est-ce qu'on a ce soir?
Alors là.
On a ça.
On a... Oui. Oh que oui.
Oh que oui. Je suis sourd d'une oreille, je te signale.
Ah merde.
J'ai du mal.
Alors moi, je reconnais cette mélodie. De quoi s'agit-il?
Eh ben, peut-être que vous connaissez mieux la version française.
Ah,
allez, la version française. Ah ben non.
Oh. Robert. On avait dit que tu faisais pas la blague.
Ah ben là, il est trop tard.
Stéphane. Stéphane, range tes Coco Girls.
Et Guy Montagnier qui fait le vieux.
Les passions les plus implacables. Change les amants à martyrer.
Grâce aux nombreuses malhonnêtetés de J.R., les gens foutres se sont considérablement enrichis. Ils ont acheté le château du Mollet dans les environs de Bricomte-Robert. Et comme il leur restait encore de l'argent à jeter par les fenêtres, ils se sont fait construire une magnifique piscine olympique où ils se baignent, même en plein hiver, afin de la rentabiliser.
C'est formidable.
Voilà, c'était Colaro qui se foutait de la gueule de la série Star qui, à l'époque, faisait 60% de part d'audience.
C'était énorme.
Depuis, seul Jean-Marc Morandini a fait mieux.
Oh.
Comme quoi, tout est possible.
Malheureusement.
Pardon, désolé.
Ah, triste fin pour
bon,
Jean-Marc.
Voilà, si vous voulez revoir le gag en entier, hein, je vous l'envoie.
Jean-Marc,
je vous pose
qui est obligé de passer sur Énergie 12. Ah là là, très quelle triste fin quand même.
Il est tombé bien bas.
Ah. Donc, le générique français.
Ouais.
Donc, ça, c'est un débat entre nous. Hein. Est-ce que oui ou non, on passe la version, celle du Mandarome, puisque TF1 raqué à chaque fois via SACEM. La SACEM reversait des sous à la SAC du Mandarome.
Ah.
Puisqu'à l'origine, c'est un hymne, justement, au grand astre, etc. voilà. Et ben TF1 réorchestre la version française, enfin le générique tel qu'on l'a connu en France, et musicalement il est pas trop mal d'ailleurs.
C'est vrai.
Jouer avec un orchestre, une vingtaine de cordes et tout.
Tu l'as là?
Bah non, malheureusement, je n'ai que le générique, ils le passeront en entier que ce soir.
Ok, bon.
Mais il avait de la gueule quoi, dans ce qu'on a entendu.
Petit rappel des fêtes, Dallas, sorti sur CBS en 78 jusqu'en 91, 355 épisodes. Plus deux téléfilms, les épisodes qui faisaient 47 minutes à l'époque.
Hein, on a autant d'émissions
court,
de supplément au week-end.
Et deux téléfilms faisaient 70-90 minutes, hein, c'est-à-dire bon, un petit téléfilm. En 86, un téléfilm pendant la diffusion de la saison, mais qui était en fait une préquelle, c'est-à-dire se situait avant le début de Dallas,
ouais.
La série. Et en 98,
le fameux téléfilm, bien sûr, qui a tué JR et le retour de JR, quoi.
C'est tout ça, va bien.
Ouais, ouais, ouais.
Un petit tour de passe-passe magnifique, d'ailleurs.
Voilà. Alors, sur TF1, alors ça a été diffusé sur TF1 à partir de 1981, hein, et ça passait donc le samedi soir.
Samedi soir.
Les samedis soirs, eh ben, c'était Dallas.
Ça, ça recommence.
Alors... alors ouais, je voulais juste ajouter que dans la version de Colaro et tout, il faut dire que Claire Nadeau qui interprète le rôle de Sue Ellen est absolument géniale. Si vous avez l'occasion de revoir Les Bris contre Robert avec Claire Nadeau, là ça vaut vraiment son pesant de cacahuètes quand même, quoi. La nouvelle version, eh ben, on prend les mêmes pratiquement, hein, y a pas de problème parce que bon bah c'est quand même une institution, hein, JR, Bobby, Pamela, Sue Ellen et Lucy aussi, Lucy Ewing. Là, bon, on va pas le dire hein, parce qu'il y a peut-être des enfants qui écoutent, hein, mais enfin bon, elle était plus souvent couchée que debout, quoi.
Oh non, il y a des quotas à respecter, mais oui, mais c'est quand même mieux.
Putain, non!
Mais parce qu'elle était fatiguée!
D'accord, ok. Ouais, ouais, dans la grange.
Dans la grange, elle va faire la sieste. Elle a bien raison, attends.
Dans la nouvelle version, bah, on a encore les mêmes, donc.
La grange.
Mais, bon, bah, il faut quand même passer une génération, hein, y a pas de problème, parce que bon, bah, c'est vrai que Larry Eggman, dans les derniers, dernières années, bon, bah, c'était plus le JR fringant qu'on a connu, hein. Mais bon, bah, il n'y a pas de problème. Dans la série originelle, ils avaient fait des enfants. Bah, on prend les enfants et puis il n'y a pas de problème. Donc John Ross Junior, hein, qui à un moment se fait enlever, hein, dans la série, quoi. Je ne sais pas si vous vous rappelez.
Ah, je ne me rappelle pas. J'ai peut-être pas tout vu non plus.
Ah, bah, mais... Si. Bon, dans la saison.
Je vais déposer dans mon compte en banque le chèque. <de Ross. rire>
Elle ferme à midi. Je me dépêche.
Alors, vous verrez si vous suivez le lien qu'on a posté.
Alors John Ross adulte est interprété par Josh Anderson, qu'on a pu voir dans CSI.
Ouais.
Et
lequel?
CSI, la version originale.
Ah bon, j'ai eu peur. Pas celui avec une lunette de soleil.
Non.
Pas.
Et on a également Christopher, donc le deuxième fils de JR et de Sue Ellen, qui est interprété par Jesse Metcalf, que là on a vu en long, en large et en travers, et assez dénudé d'ailleurs, parce que c'est lui qui se tapait Gabriel Solis dans Desperate Housewives.
Exactement.
Voilà, donc okay.
C'est le jardinier.
C'est le jardinier, ouais, voilà. C'est le jardinier.
Très bien.
Ça va lui coller à la peau, ce rôle, à mon avis. Il n'y a pas de problème. Alors, Larry Hagman apparaît. Bon, vous savez tous que Larry Hagman est mort, on en a parlé suffisamment ici. Hein, apparaît dans la première saison en entier. Il y a 10 épisodes, hein, seulement dans la première saison. Et dans les 7 premiers épisodes de la saison 2. Une saison 3.
Il est en hologramme.
Une saison 3. Et le tournage était achevé. Hein, donc, c'est bon. Il y a une saison 3. De toute façon, et là, bah, on va avoir droit ce soir. Donc, on renoue avec les bonnes vieilles coutumes, les bonnes vieilles habitudes, le samedi soir, et on fait du full frontal avec M6, bien sûr, en passant. Hein, parce que bon, bah, ok, hein, si on peut dégommer Hawaii Five-O avec Dallas, on va pas se gêner, hein, c'est TF1, quoi.
Ça va pas être dur.
Donc, on fait un tour complet des États-Unis. Nous étions donc à Honolulu, hein, voilà. Ensuite, nous passons
Par
le Texas, ensuite Los Angeles, et après, en fin de soirée, on reviendra à New York avec un petit CSI suivi après une rediffusion des Sopranos, donc nous irons par le New Jersey et
voilà.
Bravo la culture française, bravo. Allez. L'exception culturelle.
Oh, tu me dirais, avec Lou la brocante, tu fais le tour de France aussi, hein.
Alors c'est ce soir, donc 3 épisodes, les 3 premiers.
La camionnette, celle-là. La camionnette des vannes.
À l'arrière.
La camionnette de vannes.
Les 3 premiers, donc, jeter un petit coup d'œil, ça vaut peut-être son pesant de cacahuètes, de toute façon, quoi. Enfin, tant qu'il y a JR, de toute façon, quoi, on a assuré que ce soit relativement bien, quoi.
Ouais.
Il n'y a pas de problème, quoi. Par contre, au niveau série, moi, je vous conseillerais plutôt une rediffusion, mais celle-là, bah, c'est une rediffusion intégrale, c'est toute une soirée. Mais rassurez-vous, il n'y a que 6 épisodes, donc... Ah. Ça peut le faire. C'est une série qui s'appelle Code 9, et qui est en fait une série dérivée de ME5, la série britannique. Ah. Spooks, en fait, en version originale. Hein,
C'est pas le truc avec les gamins.
Et voilà, c'est une version un peu rajeunie, on va dire, mais tout aussi violente, il faut dire, hein, que ME5, quoi.
En fait, ça se passe dans un futur, dans le futur, dans une Angleterre qui s'est militarisée parce que sous le coup d'attentat, et en fait, c'est les derniers, en fait, garants de la démocratie. Ah. Étonnant. Voilà. Étonnant, très étonnant. Et franchement, j'ai plutôt. Je me suis dit, bon,
c'est
ça
pas
doit
mal.
Être merdique et tout ça. Non, et non, dès non. le premier épisode, j'étais là, je me suis dit, putain, waouh, la Bib.
Série non. anglaise
ah,
ouais, c'est, ah oui, oui, c'est, oui, la c'est, BBC, c'est une série anglaise. Donc, alors, Code 9, c'est demain soir sur Série Club. À partir de 20h50 et c'est les 6 épisodes à la suite.
D'accord.
Quoi, donc il n'y a pas de problème, mais c'est vraiment très regardable, ça il n'y a okay. pas de problème hein, on accroche dès le premier épisode. Super. On se dit ah ouais bah je vais regarder l'autre aussi. Ça va, ça le fait quoi. Donc c'est demain soir hein, Code 9 sur Série Club à 20h50. Alors des petits films à présent et tu vois qu'on n'avait pas grand chose et puis bon tranquille hein, quand même hein.
Chut, dis pas ça, les auditeurs vont fuir.
Samedi
ah tiens, j'ai un tweet de Laurent, de Jean-Luc Lemoine. Devant tous les refus d'animateurs, France 2 a décidé pour sa prochaine grille de passer directement de 17h à 19h. Oui, on est en plein mercato, désolé.
C'est ça.
Voilà. Du sport a-t-il eu le temps de se verser le café?
Ouais.
Dessus, ouais, il s'en est foutu.
Allez, non, parce que ça devenait dangereux, il était en train de chroniquer en même temps de verser du café.
Ouais, on va tout faire en même temps.
Ah bah tu sais, non mais y a pas. Alors ce soir sur Sci-Fi à 23h10, un film un peu space, un peu bizarre quand même, de Richard Kelly qui nous avait fait. Je me rappelle pas comment il s'appelle ce film, mais qui était vraiment un excellent. Darko, je crois.
Darko,
quoi, il me semble. Quoi. Un film vraiment très très bien. Et là, il s'agit de Southland Tales de Richard Kelly, avec le casting qui tue de la mort. Dwayne Johnson, Sarah Michelle Gellar, Justin Timberlake. Et en fait, ça se passe dans une espèce de futur post-apocalyptique où
il y a des zombies.
Il y a plus ou moins une guerre mondiale et The Rock, Sarah Michelle Gellar, Justin Timberlake,
Buffy.
Ils sont chez eux à Los Angeles et ils se posent des problèmes complètement existentiels quoi. Alors Sarah Michelle Gellar interprète le rôle d'une actrice de porno.
Ça lui va bien.
Non,
Je te rassure, il n'y a pas beaucoup de scènes. Il n'y en a pas de scènes.
C'est ce qu'il disait.
Là, doivent être coupées les scènes.
Voilà, Dwayne Johnson, complètement à contre-emploi. Je crois qu'il a un rôle très, très intellectuel, très.
Ouais. Ah oui, à contre-emploi. Ouais.
Non, mais vraiment. Mais par contre, le film a un rythme vraiment très spécial.
Ouais.
Il faut vraiment rentrer dedans, quoi, pour essayer
d'apprécier. On en parlait justement, tu vois, rentrer dedans.
Hein, donc, c'est Southland Tales ce soir sur Sci-Fi à 23h10. Sinon, un grand classique, un énorme classique du cinéma en noir et blanc sur TCM ce soir à 20h40, le Quasimodo de William Dieterle en 38, et Quasimodo qui est interprété par Charles Lofton. Je peux vous dire que ça dégage un maximum. Et Maureen O'Hara dans le rôle de Esmeralda.
Esmeralda, allons. De la chèvre, bien sûr.
Le bossu. Quasimodo.
Toi, tu vas te retrouver coupé le micro là comme
OCS,
ça.
OCS, ce soir, OCS Novo vous propose à 20h40 Welcome to the Rileys de Jake Scott, de sortir en 2010 avec Kristen Stewart, James Gandolfini et Melissa Leo. Et le film est assez intéressant, je l'ai pas vu, mais il a vraiment très bonne critique. Hein, vraiment, il est pas descendu quoi. Donc l'histoire a l'air assez sympa aussi. Demain sur TF1 France 2, Full Frontal.
Attention.
Entre quelle Catherine Zeta-Jones allez-vous choisir?
Oula, alors
celle
attends.
De Ocean 12
ou celle de Haute Voltige? C'est tout, il y a que deux films où elle est de toute façon, c'est les deux.
Non, il y a Zorro aussi.
Ouais, mais bon, à chaque fois c'est cela. Moi je prends Haute Voltige parce que Sean Connery, je l'adore.
Voilà.
Ah, je suis d'accord avec toi. Oui, Ocean 12 est amusant, mais
ça vaut pas Haute
Voltige. Pas plus de deux fois. Pas
plus de deux fois. Bien sûr. Elle est tellement belle.
Ah. Oui, non, mais c'est vrai que dans Haute Voltige.
Voilà.
Pas
mal.
On apprécie les plastiques, c'est sûr. Sur Canal Plus Cinéma, toujours demain à 20h45, Marley de Kevin MacDonald. Kevin MacDonald, c'est le type qui nous avait sorti Le Dernier Roi d'Écosse.
Ouais.
Hein, ok. Et là, bien, c'est un documentaire sur Robert Nesta Marley.
Attends.
Bob Marley, quoi. Ouais. Donc, quand on connaît le bonhomme Kevin MacDonald, on peut se dire que c'est du sérieux, quoi. Donc,
c'est pas mal.
Rien ne sera occulté, on va dire.
La vraie fin.
Hein?
Jusqu'à sa mort.
Ça, c'est juste un petit message personnel aux gens qui idolâtrent certaines personnes sans discernement. Sur Canal Jimmy, demain soir à 20h45, Elisabeth de Tom Hooper. Hein, Tom Hooper, le Elisabeth, discours d'un roi. Elisabeth, la fille de Henri VIII et de Anne Boleyn, donc la seconde épouse de Henri VIII, ouais. La première étant Catherine d'Aragon.
C'est vrai.
D'accord. Ok. Elisabeth,
ah, moi je lis donc... pas. Je lis pas Voici, donc j'ai du mal à suivre.
Ah bon, je te passerai les magazines.
Ah non, 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 mais moi je.
Ça
je,
s'appelle Guillotine Magazine.
Je suis les tweets de Stéphane Bern, c'est pour ça. Alors Elisabeth, interprétée par Hélène Mirren, il y a également Jeremy Irons, Hugh Dancy, enfin bon, la fine fleur, la crème des acteurs et actrices anglais. Elisabeth, c'est la reine, dans l'histoire d'Angleterre, c'est la reine qui a fait de l'Angleterre un pays moderne et un pays tourné vers l'exportation. Mmh. Hein, c'est sous son règne que les premiers bateaux sont partis pour les États-Unis.
non, pour les Amériques.
Les Amériques,
oui, s'il te plaît.
Les un petit peu à cause d'elle aussi, parce que bon, bah, elle a bien contribué à ce que les différentes religions en Angleterre, eh bien, soient encore plus matraquées, on va dire, du moins toutes celles qui n'étaient pas religion officielle, à savoir religion anglicane, qui avait été instaurée par son papa Henri VIII. C'est la reine qui a fait vraiment énormément pour l'Angleterre, quoi, qui a vraiment développé, quoi, l'Angleterre en tant que grande puissance mondiale à l'époque. Donc ça vaut son pesant de cacahuète. De toute façon, c'est Tom Hooper, Hélène Mirren, on achète. Ou alors sur Action demain soir à 20h40, Les Boucaniers, un film d'Anthony Quinn qui a réalisé, donc ce film, on a réalisé d'autres aussi, quoi, et dans laquelle il y a une particularité assez remarquable, parce que c'est très rare. Il y a un autre film, je crois, c'est un de ses premiers films, où on voit Yul Brynner avec des cheveux.
Est-ce que c'est les siens?
Ah oui, c'est... oui, si, si.
Ah bon, d'accord.
Et il y a également Claire Bloom et Charles Boyer. Les Boucaniers, ça raconte les aventures de Jean Lafitte, né à Bordeaux et qui a été flibustier, ouais. Qui a été, on va dire, pas corsaire, hein, plutôt flibustier, quoi. Mais en fait, qui a été également un grand négrier, hein, qui a contribué à la fortune de Bordeaux en pratiquant ce qu'on appelle le commerce triangulaire. Donc,
oui.
Pas franchement
des esclaves
recommandables. Et moi, je me rappelle de ce film que j'ai vu quand j'étais tout petit, quand j'étais très jeune.
Oui, du sport a été jeune.
Oui,
il a
oui.
été petit.
Et moi, ça m'avait vachement marqué, cette histoire, quoi. J'avais trouvé ça vraiment remarquable.
Tout
et
petit,
puis en
petit.
Plus, il y a eu Yul Brynner, quoi. Alors bon, hein, on ne se pose pas de questions. Lundi. Alors, lundi et mardi, je vous ai proposé carrément des soirées double programme.
Ah.
Hein, une chaîne qui regarde deux films comme ça, tranquille.
En même temps.
Sur W9, ça commence bien à 20h50. Qui casse?
Ah,
bon. Ah,
yes. On sent que le 2 va sortir au cinéma, t'as vu?
suivi de 22h50 de Shadowman de Michael Cush, ouais. Où Steven Seagal sauve sa fille et des griffes d'un réseau d'espionnage, et en même temps il empêche un virus mortel de tomber dans les mains ennemies. Il est fort quand même, ce mec, hein.
Il est trop fort.
Ou alors on a également un double programme sur lundi prochain sur TMC à 20h45, La Vengeance de la Peau. C'est le deuxième de la série, oui. De Paul Greengrass avec Matt Damon. Et tout, quoi.
Qui est pas
excellent.
Trop mal. Ouais.
Bah, ils sont tous bons, hein. Les trois sont bons.
Ouais,
hein,
les trois sont bien.
Suivi
pour une fois qu'il y a des films réalisés en Europe, ça fait... on voit pas. C'est vrai, on voit toujours des villes américaines. Là, on voyage un peu en Europe. Bon, bref.
Avec dans le 2 une très grosse pub. Avec dans le 2 une très grosse pub pour un syndicat français, Attaque. On va voir en gros les bandeaux.
C'est
tout.
Possible, c'est ouais, possible.
Ouais. Ça, il y a beaucoup de détails. Hein,
ils ont fait la suite là, il y a pas longtemps, l'héritage, Jason Bourne, l'héritage.
Hélas.
Bah ouais, avec Jeremy Renner.
Je l'ai pas vu. Vous l'avez vu?
Bah il paraît que c'est pas terrible.
Ouais.
Quoi,
bon,
on appelle Thomas pour voir.
Non,
on va pas faire chier.
Allez, le deuxième film sur TMC lundi soir après La Vengeance dans la Peau, c'est Les Dents de la Mort.
Là.
De Charles Robert Carner.
On a des sang dans le titre. Oh,
avec
La Vengeance dans la Peau, Les Dents de la Mort.
Je vais te tuer, t'es méchant.
Avec Lou Diamond Phillips et Coolio.
Ouais.
Ça raconte l'histoire d'un requin qui est égaré dans les eaux du Mississippi.
Pourquoi tu nous parles de ça? Sérieusement. Est-ce que quelqu'un va avoir ça? Non, mais.
Bah si,
mais pourquoi pas?
Si.
Mais non, c'est un quoi? C'est un don de la mer raté? C'est...
Ah, tu mets Coolio, t'as tout le. Bon, vas-y, quoi. Bah, ça doit être un bon film, il y a Coolio.
Oh, il y a Coolio. Non, il y a Lou Diamond Phillips quand même, quoi. Attends. Hein.
Et alors,
ça dit rien
ça
au mec
tout.
Des rabats. Enfin bon.
Bon, allez, toujours double programme mardi sur Paris Première. Alors, tout d'abord, très gentil, très, on va dire, la joie de vivre et tout ça, quoi. Mais enfin, quand même, les petits problèmes qui sont imposés par les adultes alors qu'on est encore ado et tout, quoi. C'était une comédie musicale qui a été adaptée au cinéma. C'est Grease.
Ah.
I got you.
This is the fire.
Bon, voilà, oui. Vous avez tous compris. Travolta et Olivia Newton-John. Film de 78, suivi de Rien à voir à 22h45 de Maîtresse, le film de Barbet Schroeder en 75 avec Buoger et Depardieu, qui raconte un petit peu les expériences sadomaso d'une maîtresse, donc, qui domine, une dominatrice. Et Depardieu, bah, il débarque là-dedans, il sait pas trop ce qui se passe et tout, quoi. Mais c'est Depardieu.
C'est vrai que comparé à Grise...
Jeune et fringant, donc, et connaissant...
Et à l'époque,
un petit
pas
peu
encore porté sur la bouteille.
Là, et,
ça se voyait pas.
Ça se voyait pas, quoi. Surtout, et puis, il avait avait la santé à l'époque. Hein. Oui. Le père Gérard, quoi. Alors ça, c'est sur Paris Première. Sinon, là, carrément, triple programme sur Ciné Plus Frisson mardi prochain avec les trois Matrix. Vous en avez jusqu'à 4h du mat, de 20h40 jusqu'à 4h du mat. Hein.
Ouais.
Matrix, Reloaded et puis Révolution. Quoi, donc,
Est-ce qu'il y a Inter de Matrix pas loin, non?
Non, parce que bon, bah, dans les trucs de programme, tu sais quoi, les trucs de nuit.
Ouais.
C'est, vraiment...
Mais là, les mecs de la programmation, ils avaient vraiment...
les initiales. Quoi.
Bon, on a un BHL à passer à 4h30 du matin. Qu'est-ce qu'on peut mettre avant? Ouais, les trois Matrix. C'est la même chose. Philosophiquement, c'est la même chose.
Allez, on met les 6 Star Wars. Allez,
allez, toujours double programme sur Ciné Plus Star mardi prochain avec deux films de Clint Eastwood. Le premier, Honky Tonk Man, où joue son fiston Kyle. C'est l'histoire du musicien country alcoolique et tout. Une réflexion sur le monde qui est en train de changer, tout ça. Enfin bon, mais très bien, quoi.
Ouais.
Donc, avec le petit Kyle qui est devenu maintenant. Qui s'est fait son nom, puisque bon, c'est un bon bassiste de jazz, hein, qui a sorti pas mal de disques. Suivi de Pink Cadillac, un film de 89, mais qui n'est pas de lui, qui est de Buddy Van Horn, et dans lequel une histoire de braquage, enfin, un truc comme ça, quoi. Mais bon, un film d'action, quoi, assez sympathique. Mardi, toujours sur Ciné Plus Classique, double programme western, avec à 20h45, Les Bannis de la Sierra. Dont la version
classique
originale est The Outcast of Poker Flat, donc c'est sûr qu'il vaut mieux dire La Sierra plutôt que Poker Flat parce que ça parle pas à l'étranger. Et c'est un film de Joseph Newman qui date de 52 avec Dale Robertson, Ad Baxter et Cameron Mitchell. Joseph Newman qui nous avait fait l'excellent Fort Massacre en 58. C'est suivi à 22h05 des Rôdeurs de la Plaine de Don Siegel en 1960 avec Elvis Presley qui joue le rôle d'un indien, enfin pas d'un indien, il est métis en fait, et donc oui, il va être partagé entre les indiens et la famille adoptive blanche, les fermiers et tout ça, quoi.
Ça,
il sait pas trop, mais en fait c'est les nanas qui vont régler le problème, ouais, parce qu'elles sont deux. Il y a Barbara Eden et Dolores Del Rio. Ah, Barbara Eden, c'est le côté blanc, et Dolores Del Rio, c'est plutôt le côté, on va dire, un petit peu tanné, hein, indien, quoi.
C'était l'époque où ils prenaient des blancs pour faire des blagues.
Oui, oui, non, mais
parce qu'Elvis Presley en indien.
C'est un Don Siegel quand même, quoi.
Ouais.
Et autant que je me souvienne, Don Siegel a été dépêché au dernier moment sur le film parce que le réalisateur attitré, qui était Richard Thorpe, qui avait fait Jailhouse Rock, qui avait fait aussi un autre film avant, dans les années, fin des années 50 avec Elvis, donc le premier film d'Elvis, n'était pas disponible, il était sur une autre production. Et donc au dernier moment, ils se sont dit, ah bon, oui, Don Siegel, ah oui, c'est le mec qui avait fait The Body Snatcher, l'invasion des profanateurs de sépultures, qui avait bien marché à l'époque, fin des années 50, qui s'est dit, ah bah ouais, on va le prendre lui pas mal et tout, quoi, tranquille, de toute façon. Allez, c'était le début un petit peu des films tournés à la va-vite, dans lesquels, peu importe le sujet, peu importe les autres acteurs, peu importe l'endroit où ça se passe, il y a Elvis dedans.
Il y a Elvis.
C'est tout, quoi. Et en fait, c'était un film qui datait juste quelques mois avant que Elvis ne parte pour l'armée.
L'armée, ouais.
Donc, il fallait qu'il thésaurise un petit peu, qu'il sorte un maximum de trucs pour que le public puisse attendre le retour d'Elvis
de l'armée. Service,
quoi.
Ouais.
Voilà. Bref, le colonel l'a fait tourner avec une. Enfin, l'a fait tourner à la charge de cavalerie. Allons-y, on enchaîne.
On pourra préférer
c'était
peut-être.
Nul, c'était nul.
Alors on pourra préférer
j'assume
peut-être.
J'assume ce ratage.
Ça y est, il est l'heure de la sieste.
Ouais. Mardi, donc toujours mardi prochain sur la chaîne Action, l'excellent film de Nicolas Meyer, C'était demain, avec Malcolm McDowell et David Warner, qui avait obtenu le Grand Prix au festival d'Avoriaz. À l'époque, c'était Avoriaz, hein, le film du festival de fantastique et d'horreur, où Malcolm McDowell interprète l'écrivain et inventeur H.G. Wells, et qui donc a fabriqué sa machine à voyager dans le temps. Mais en même temps, eh bien, c'est la période de Jack l'Éventreur. Et donc Jack l'Éventreur se fait poursuivre après un assassinat, et donc va se réfugier dans cette machine dans le temps, et va être prolongé dans l'ère contemporaine. Et donc H.G. Wells, Michael McDowell, va le poursuivre dans le temps pour arriver à... Et c'est vraiment très bien, très fun. Hein.
C'est bien
David
Warner, ça, donc,
David Warner en Jack l'Éventreur, il est excellent. Et bon, McDowell, quoi, c'est McDowell, quoi. Mercredi sur Arte, on a le Pina de Wim Wenders, consacré donc à la chorégraphe et danseuse allemande Pina Bausch. Et j'ai pas encore vu ce film. Il paraît que tous les gens qui connaissent un peu la danse et qui connaissent un petit peu le cinéma disent c'est la première fois qu'on arrive à faire un film sur la danse. On arrive à montrer vraiment les danseurs de la façon la plus vraie qui soit. On est pratiquement devant la scène, alors que généralement c'est très difficile de montrer la danse. Il y a d'autres disciplines qui sont très difficiles à montrer au cinéma. Le football, par exemple, quoi. Jamais eu de film de cinéma et tout, quoi. Il n'y a qu'un sport qui a vraiment percé au cinéma, c'est la boxe. Hein. Mais sinon, les autres, pas tellement. Et là, c'est pareil pour la danse.
La pétanque aussi, c'est pas terrible.
Et Wenders a attendu vachement longtemps en plus, hein, parce que Wenders connaît Pina Bausch depuis très longtemps.
Film de boule, quoi.
Non, je suis pas d'accord. Il y a eu d'excellents films de pétanque.
Ah oui.
Marius. C'est très très bien filmé, film de ce côté-là.
C'est suivi donc le film de Wenders sur Pina Bausch. Suivi à 22h30 d'une production de Pina Bausch qui s'appelle Folmont, qui était sortie, qu'elle avait créée en 2010. Sur Énergie 12, toujours mercredi prochain, Rendez-vous en enfer de Loro Chartrand, où Steven Seagal est un agent d'Interpol qui va démanteler un trafic d'armes et de drogue dans les Balkans. Il est fort quand même, hein, Steven. Et peut-être qu'il faudra préférer sur la chaîne Polar mercredi prochain Les Tueurs. J'en ai parlé la semaine dernière, j'en reparle parce que c'est quand même un des monuments du film noir. Oui. Le Robert Siodmak avec le premier grand rôle de Brut Lancaster et la toujours magnifique et vénéneuse Ava Gardner.
Vénéneuse.
Ah bah oui, bah écoute. Hein,
faut voir le film pour comprendre.
Ouais. jeudi sur Ciné Plus Club, une soirée thématique qui n'est pas fait pour les enfants, parce que le premier film, on va au Japon, et le premier film s'appelle Prisonnière du vice de Akira Kato en 75 avec Gore Wazu, Naomi Tani, et vous allez comprendre de quoi il s'agit, car juste après, il y a un documentaire qui s'appelle Pinku Aiga. Qu'est-ce qu'est un Pinku Aiga?
Non, je ne répondrai pas.
Bon, c'est un documentaire qui est inédit, hein, qui date de 2012, donc l'année dernière, et qui a été fait par Eric Montmayer. Et après ce Pinku Aiga, ce documentaire à 22h05 sur Ciné Plus Club, un autre film dans la même veine, mais plus récent, La femme au sein percé de Sisho Nishimura, qui date de 1983. Alors,
pourquoi ce titre?
Quel titre?
Tu as dit la femme au sein percé?
Ouais.
Ah, c'est assez intriguant comme titre.
Mais disons qu'il pour ce, on va pas développer un peu parce que bon, comme dit, on a une heure de grande écoute, hein, et que l'approche japonaise en matière de sexe.
Pardon.
est un petit peu, on va dire space. par rapport à nous européens.
Je te prête mon micro si tu veux. D'accord, j'ai compris.
Non, okay, on a déjà parlé, on a eu du mal déjà avec la chronique du bouquin d'Agnès Mignard. Ça a été assez chaud comme ça.
Si tu veux, je te ramènerai deux DVD la semaine prochaine.
Mais volontiers.
Tu pourras te faire une idée de ce que peut être un Pinku Aiga.
Je peux inviter des potes ou c'est mort?
Oui.
Ah, très bien.
Oui. Peut-être pas des nanas parce que bon.
C'est pour ça.
Mais bon.
Ok, très bien.
Ok. La femme aux cheveux rouges, ça c'est très bien.
Okay.
C'est toujours jeudi prochain sur OCS Max, c'est inédit. Ça s'appelle Phil Spector.
Ah, le producteur.
Yes, The Wall of Sound. Et là, eh bien, il s'agit d'un téléfilm inédit, du moins en France, qui a été réalisé par David Mamet, donc, qui nous a fait pas mal de bons petits films. C'est un excellent scénariste. Au niveau réalisation, il a commis également quelques trucs un petit peu, on va dire, négligeables, quoi. Mais dans l'ensemble, c'est quand même assez bien. Et donc là, eh bien, il s'est attaché à reproduire, non pas l'ensemble de la vie de Phil Spector, hein, c'est-à-dire sa carrière de musicien en début des années 60, fin des années 50, puis de producteur avec son fameux Wall of Sound. C'est lui qui a façonné le son de la Motown, qui a remis au goût du jour Ike and Tina Turner avec leur gros tube River Deep Mountain High, qui a enregistré avec pratiquement tous les grands musiciens de rock, hein. Il a fait John Lennon, il a fait un petit peu des Beatles, mais il n'est pas crédité. Il a fait un Ramones aussi, enfin bon, pour citer les plus grands, mais je veux dire, c'est un producteur que tout le monde s'arrachait, quoi, sans problème. Et donc ça raconte l'histoire de qui arrive à Lana Clarkson, hein, cette jeune actrice qui a été retrouvée morte chez lui. Et ça raconte donc l'histoire de ce procès, parce qu'il y a eu deux procès. Au premier procès, il s'en sort bien, on va dire, il est coupable, mais il s'en sort bien. Le deuxième procès, il a pris 19 ans, alors que c'est quand même Phil Spector. Alors, c'est Helen Mirren qui n'interprète pas le rôle de Phil Spector, mais de son avocat. Et c'est Al Pacino qui interprète le rôle de Phil Spector.
Joli.
Alors, rien que pour voir Al Pacino revêtir, enfin, se poser sur la tête les moumoutes qu'avait Phil Spector, parce que Phil Spector, c'était pas ses vrais cheveux. Si tu regardes les photos de lui, il a toujours les cheveux raides comme ça, genre Jeanne d'Arc, tu vois. Mais c'est parce qu'il a eu un grave accident de bagnole, quoi. Et bon, bah, il avait des cicatrices énormes sur la tête, ce qui fait qu'il pouvait pas avoir une chevelure normale. C'est pour ça qu'il foutait la perruque toujours la même, c'est-à-dire qu'il n'a jamais changé de coupe de cheveux, quoi, ce type-là, quoi, quel que soit son âge.
C'est la même.
C'est toujours la même, quoi.
Il n'y en avait pas.
Et il y a également Jeffrey Tambor, donc, hein, dans ce téléfilm consacré à Phil Spector. Donc, je rappelle, c'est jeudi prochain sur OCS Max à 20h40. Ou alors, bah, on en parlait avant, hein, sur OCS Choc, saison 6, deux épisodes des Sopranos. Bah là, vous êtes un petit peu en retard, parce que saison 6, c'est un petit peu la fin. Vendredi, sur TF6, à 20h50, Blackdown de Andrei Grudzinski, avec Steven Seagal, qui est un agent de la CIA, qui empêche des terroristes de s'emparer d'une bombe nucléaire. Il est fort quand même, hein, Steven. Ciné plus frisson, on vous propose vendredi prochain The Killer Inside Me, qu'on avait chroniqué ici, Thomas et moi, parce que Thomas l'avait vu également, le film de Michael Winterbottom, tiré du bouquin de Jim Thompson, avec Kate Hudson, Casey Affleck, Jessica Alba, Elias Koteas, Ned Beatty. Enfin bon, le casting est impeccable. Le film manque peut-être un petit peu de rythme, on va dire. C'est pas évident de s'attaquer à ce genre de bouquin. Le bouquin, il est énorme, hein, de Jim Thompson. Moi, je l'ai lu au moins 4 fois, ce bouquin, tellement c'est bien. Mais c'est quand même bien traité. Il y a quand même de grosses scènes, des scènes qui sont assez impressionnantes, on va dire. Bon, je vais pas détailler, mais enfin bon, où la violence est vraiment très très déplacée. Thomas a même trouvé que il y avait trop de violence, c'est-à-dire qu'on aurait pu en montrer moins, que c'était la même chose. Moi, j'ai pas trouvé ça
c'est votre point
agréable
de vue.
À regarder, tout, quoi, avec quelques petites pastilles musicales pour replacer dans l'ambiance, parce que c'est supposé se passer en 40 après la Seconde Guerre mondiale. Donc ça, c'est sur Ciné plus Prisson à 20h45 vendredi prochain, The Killer Inside Me, suivi d'un autre excellent polar qui s'appelle Memento, le premier Christopher Nolan. Quand on a découvert Christopher Nolan, qu'on s'est dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc et tout, quoi, et qu'il a fallu 2 ans pour qu'on comprenne le système qu'avait employé Christopher Nolan pour la construction de son film, quoi. Et ça, c'était quand même assez énorme, parce que c'est un truc tout simple, quoi. En fait, quoi.
C'est en fait, tu vas en arrière dans l'histoire. C'est quelqu'un qui a perdu sa mémoire.
C'est quelqu'un qui a perdu sa mémoire et qui est obligé de foutre des post-it partout pour se rappeler et pour se remettre dans la vie de tous les jours.
D'accord.
Et pour savoir pourquoi il n'a plus de mémoire aussi.
Waouh.
Et donc,
mais il est très très bon, hein. C'est vraiment un très beau film.
C'est un très bon film. L'idée est géniale. Petit budget, pas beaucoup d'acteurs. Ouais. Bon, Guy Pearce qui joue le rôle principal, il y a Carrie-Anne Moss, Joe Pantoliano, Georgia Fox également, qu'on a vu dans les CSI, hein, avec notre ami CSI original.
Pas Fishburne, oui, l'autre.
Non, non.
Celui avant, oui.
Je sais pas son nom.
Enfin bon.
Je vois sa tête.
Enfin bon.
Police fédérale Los Angeles.
Je suis incapable, je suis désolé.
Okay, bon, moi c'est pareil, tu vois, quoi. C'est des trous de mémoire comme ça. Donc c'est Memento. Alors si vous l'avez jamais vu, ça vaut vraiment le coup, parce qu'après il y a eu un ou deux films qui sont servis du même artifice.
genre on commence par la fin puis on
oui.
Avec l'histoire des post-it et tout quoi. Ça s'est revu quoi, mais là c'est quand même la première fois. Et bon bah le film tient vraiment bien la route et on a vu Christopher Nolan par la suite a confirmé tout le bien qu'on pensait de lui au niveau talent d'écriture et de réalisation quoi. Parce que bon, c'est quand même lui qui s'est tapé les trois Batman.
Il est producteur du dernier Superman d'ailleurs. Producteur. Et... mais bon.
Toujours vendredi, on termine vendredi avec sur Cinéfix un petit péplum Massiste contre le fantôme de Sergio Corbucci et Gerardo Gentilomo.
Wow.
Avec Gordon Scott là dans le rôle de Massiste, ou alors un des westerns magnifiques qu'a fait John Ford en 1962, L'homme qui tua Liberty Valance. Avec James Stewart, oui. John Wayne et dans le rôle des méchants Lee Marvin plus Lee Van Cleef, les deux ensemble quoi. Hein, pour te dire que allez vas-y quoi.
Allez.
Ça dépote. Et le film, bon, il est magnifique et je me rappellerai cette phrase célèbre, bon pas célèbre, de John Ford à qui on demandait pourquoi dans ses films il y a toujours des plans fixes, que la caméra ne bouge pratiquement jamais, il n'y a pas de travelling, de trucs comme ça et tout. Il disait mais c'est normal. Les machinistes sont vachement moins payés que les acteurs. C'est donc aux acteurs d'aller vers la caméra.
Excellent. Excellent.
C'est John Ford, quoi. Et c'est tout. Hein. Bah, voilà, quoi. Ça vous fera déjà une bonne semaine de télé, à mon avis.
Ouais. Lancement.
Ah, mais... Eh ben, ma foi, ce qui fait une émission numéro 353 assez costaud. Mine de rien, on a bien rempli. Mais Thomas n'étant pas là... Et joyeux anniversaire à lui, espèce d'enfoiré. Ma foi, c'est à Morgan qui incombe la difficulté de faire un résumé.
Ouais, il a rien noté.
J'ai rien noté en plus. Alors, nous avons eu du Saint-Jacques de Compostelle avec donc du coquillage. Nous avons eu du Lucky Miyoshida. En passant par un homme slippé sans slip avec des parents, avec deux papas. Puis nous avons parlé Stetson, je crois qu'on dit Stetson.
Stetson.
Voilà, donc saga Stetson qui revient dès maintenant. Et puis série télé, Soprano, Mafioso, voilà, à peu près. Je n'ai pas le talent de Thomas, mais...
Et ne croyez pas que c'est facile,
revient,
au
Thomas.
Contraire, c'est assez difficile mais comme exercice.
C'est vrai qu'il faudrait que la prochaine fois, s'il n'est pas là, promis, je vous fais un truc bien.
D'accord, bah c'est sympa. En attendant, si vous avez manqué quelque chose dans cette émission, et ben heureusement, grâce à la diffusion différée, vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission, mais aussi des précédentes. Vous pouvez aussi choper nos chroniques écrites, laisser vos commentaires, poser vos questions. N'hésitez pas, il suffit d'aller sur le site web de l'émission supplementweekend.fr. Vous écoutez Radio FMR sur 89.1 MHz. Nous sommes en direct et en alternance avec Boobs FM.
William Peterson.
Est venu tard celle-là.
Ah ouais, ouais.
Supplementweekend.fr sans accent dit tiré, y a rien à gagner, mais c'est un plaisir. En tout cas, c'est vous qui nous donnez l'envie de continuer. Vous écoutez FMR, donc de suite du sport. Prends la. À partir de 14h.
Non, j'ai des achats à faire et tout, on va laisser tomber.
Bon, d'accord.
La sincérité. Bon, il a des achats.
La semaine prochaine, même heure, même fréquence. Ciao, bye bye.